Alors, on va commencer Bezrat Hashem notre premier shiur sur le chapitre 18, Chai en hébreu. Ce soir, c'est un jour particulier, puisque nous sommes, aujourd'hui nous étions le 10 Shvat, et ce soir nous sommes le 11 Shvat. Et dans le monde chassidique, c'est une grande date, puisque le 10 Shvat, c'est le jour dans lequel, en 1950, ça fait 63 ans, 1950, Tavshin Yud, rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, est parti chez Hachem, c'était le 10 Shvat, c'était un Shabbat matin. Et pendant un an, le mouvement Chabad était un peu dans le flou, puisque personne, il y avait notre rabbi, mais il ne voulait pas prendre le poste. Il ne voulait pas prendre le poste, parce que le rabbi se considérait comme un chassid de son beau-père, qui est donc le rabbi précédent. Et il disait, le poste est tellement grand, comment je peux prendre un poste comme ça? Et les chassidim m'expliquent qu'en vérité, ça on l'a vu chez les grands, comme Moshe Rabbeinu, qu'on a vu que Moshe Rabbeinu, parce qu'on dit qu'un tzaddik c'est comme un petit Moshe Rabbeinu, c'est la neshama de Moshe Rabbeinu. Il a une partie de la neshama de Moshe Rabbeinu. On a vu que Kakadosh Bohu, quand il a demandé à Moshe Rabbeinu dans la paracha Shemot, il lui a dit, va libérer le peuple juif. Qu'est-ce qu'a répondu Moshe Rabbeinu? Il a pas dit d'accord. Il a dit, qui suis-je? Ça veut dire que justement, parce qu'il a conscience de l'ampleur de la responsabilité, il se dit, je ne suis pas fait pour le faire. Concrètement, on voit que le rabbi ne voulait pas prendre le poste. Celle qui a réussi à le convaincre, finalement, c'est sa femme. Sa femme a réussi à le convaincre, parce que sa femme, c'était la fille du rabbi précédent. Elle lui a dit, écoute, papa a fait beaucoup de travail, et s'il n'y a personne qui va prendre la relève, oui, qu'est-ce qui va devenir du travail? Donc il a accepté. Et je sais que chez Chassidim, on explique cette idée, une idée très intéressante. On dit qu'en vérité, c'est particulièrement une personne qui est consciente de la responsabilité, c'est justement elle qui doit prendre la responsabilité. Je vais vous illustrer ça avec une histoire. On raconte qu'une fois, il y a un autre rabbi, qu'on appelait le rabbi Shalom Ber, qui lui, il a vécu dans la ville même de Lubavitch. Une fois, il a demandé à un de ses élèves, de Yeshiva, il lui a dit, est-ce que tu peux aller dans telle et telle ville pour t'occuper à être shochet? Ah, vous savez, le métier de shochet, aujourd'hui, c'est un métier qui est un petit peu basse classe. Mais en vérité, ça devrait pas être comme ça. Et surtout à l'époque, quelqu'un qui était shochet, c'était un, comme je redis aujourd'hui, docteur. C'est-à-dire quelqu'un qui signait son nom et qui mettait shochet à côté, c'était quelque chose de grand.
Grande classe. David, hein. Il faut le bénir, le doyen. Notre David national.
On l'attend pour le bénir. Et donc, une fois le rabbi Rachab, il a demandé à un de ses élèves, qui savait faire la shrita, il a demandé de s'occuper à aller faire la shrita dans une ville. Alors, le rabbi Rachab, donc ça c'est ce que le rabbi Rachab a demandé. Qu'est-ce qu'a répondu l'élève? L'élève a répondu, il a dit au rabbi, je peux pas. Il a dit, la responsabilité est trop grande. Parce qu'on sait que dans la shrita, si on fait une erreur, ça veut dire que les gens ils vont manger ta ref à cause de moi. Donc, il a dit, oh...
C'est grave, là.
Ah oui, voilà.
Sacrilège.
Désolé, je vais commencer.
Oui, là, c'est pour Michel.
Désolé, il m'a dit pour la vodka.
Et pas de problème. Alors il a dit Rabbi, je me sens pas prêt pour ce poste, parce que je sens que c'est un poste qui a trop de responsabilités. Je sens que c'est un poste qui est trop risqué. Vous savez ce qu'a répondu le Rabbi? Le Rabbi Rachab.
Pour faire la shrita.
Pour faire la shrita. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, et qui tu veux qu'on mette à ta place? Quelqu'un qui est pas conscient de la responsabilité? Ça veut dire que justement, quand il y a une personne qui est consciente de la responsabilité et qui a peur justement de prendre la responsabilité, Dafka, c'est une preuve que c'est quelqu'un qui comprend la chose et c'est lui qui fait envoyer pour cette mission. D'accord. Donc voilà pour la petite introduction que je voulais faire pour la soirée de ce soir pour la Hiloula. Maintenant, on va passer directement au chapitre 18.
Chaim Tovim Mul Shalom.
Chaim Tovim Mul Shalom. Alors David, vas-y.
Ah, je t'ai servi? Ouais, moi tu m'as servi. Non, c'est pour Ménard.
Ah oui.
Ah d'accord.
Oui.
Que Kadosh Baruch Hu nous aide, que des troupes la Hiloula, Kadosh Baruch Hu nous ouvre les yeux,
amen.
Qu'on réussisse à comprendre
amen.
Notre étude
amen.
Et qu'on réussisse à traduire l'étude en action, si Dieu.
Amen. Amen. Amen.
Ah, c'est ce qu'on dit tous les matins dans Modéani. Hein?
Ouais. Traduire l'étude en action. Alors, la lettre Chai, la lettre 18 qu'on va étudier aujourd'hui,
on
va parler. Hein,
Ouais.
On va parler de l'amour. l'amour d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? C'est un sujet en général qu'on développe pas trop, mais dans la Chassidoute on le développe. En général, les gens aiment mieux parler de la crainte de Dieu. Mais vous remarquerez que dans la Chassidoute, on parle très peu de la crainte de Dieu. On se focalise plus sur l'amour que sur la crainte de Dieu. Ça veut dire que on essaye de tout faire pour que les gens font les mitzvot par amour et pas par crainte. Ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu ? Est-ce qu'on l'a déjà en nous ? Comment on peut l'améliorer ? D'accord ? À quoi on peut arriver ? À quoi on ne peut pas arriver ? À quoi les tzadikim peuvent arriver ? À quoi nous on peut arriver ? On va essayer de définir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? C'est un sujet très intéressant.
Un tzadik, c'est quelque chose qui est prédestiné ou c'est quelque chose qui se construit ?
Bonne question, on va développer tout ça. D'accord ? Il y a une partie qui se construit, mais il y a une partie qui est prédestinée.
Donc voilà, d'accord, ok.
Ça veut dire que 99,9% des gens ne deviendront jamais tzadik.
Même si il a le moteur, il faut le remettre.
Non, c'est pas notre but. Le Tania s'appelle le livre des Bédonim. Pourquoi ? Parce qu'on dit que si les gens arrivent à être moyens, c'est quoi moyen ? Quelqu'un qui est moyen, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive à repousser son yitzhara à chaque fois son yitzhara à l'attaque, c'est déjà extraordinaire. D'accord ? Un tzadik, c'est autre chose. Un tzadik, c'est une autre ligue. Un tzadik, c'est quelqu'un qui, dès le départ, dès le départ, il n'a pas de...
Ferme la porte, on ne partage plus.
On est complet. Un tzadik, c'est quelqu'un qui, dès le départ, il n'a pas de yitzhara qui l'attaque. Donc c'est une autre ligue. Il y a quelqu'un ici qui son yitzhara ne l'attaque pas ?
Au cours.
Hein, David ? Il y a quelqu'un ici qui son yitzhara n'attaque pas ? Donc personne n'est tzadik. Ok, on y va. Donc on va essayer de développer maintenant ces amours. Donc ce qu'on va expliquer aujourd'hui...
Mais ça dit que yitzhara il attaque.
Non.
Mais différemment.
C'est pas yitzhara.
Il attaque mais il attaque pas.
Non, c'est pas yitzhara. Ça s'appelle pas l'Itzara. Après, chez le Tzadik, ça va être des nuances, que j'aurais pu faire mieux la mitzvah. C'est bon.
Mais il n'aura pas essayé d'attaquer quand même ?
Non, c'est rien par rapport à nous. C'est rien du tout.
D'accord, mais il a toujours son Yitzara.
Nous, c'est soit la mitzvah, soit la vera. Le Tzadik, c'est. J'ai fait la mitzvah comme si. Ah, j'aurais dû la faire comme ça.
Ouais, mais il a toujours son Yitzara.
Non. David Amelech, il dit comme ça. David Amelech, il dit mon cœur est vide à l'intérieur. Et qu'est-ce que dit la Gemara Brachot ? La Gemara Brachot, elle dit que David Amelech a tué son Yitzara avec le jeûne.
Avec le jeûne.
Mais la Gemara dit clairement que c'est pas. Il y a des gens qui peuvent jeûner toute leur vie et.
Ça sert à rien.
Ça veut dire que quand tu es quelqu'un comme David Ameller, quand tu es quelqu'un comme un tzadik, tu travailles et à un moment il y a un déclic. Tu vas avoir deux mêmes personnes qui ont eu le même environnement, le même travail, les mêmes études, et à un moment, un, il y a un déclic qui devient tzadik et l'autre il reste comme lui.
Ça veut dire qu'on a un potentiel.
Quand c'est chacun son travail. Ok. Alors dans cette lettre, on va expliquer maintenant qu'il y a deux catégories d'amour. Deux catégories d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le premier amour qui est l'amour, on va dire, qu'on va développer. C'est un amour qu'on essaie de développer au travers de notre Amida, au travers de notre étude, au travers de nos mitzvot. Et il y a un deuxième amour qui est un amour naturel que toute personne a envers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit « j'aime Hachem », alors que par derrière tu le vois, il fait 400 coups, tu dis « c'est pas possible, c'est un menteur ». Non, c'est pas un menteur. Alors comment tu peux définir cet amour ?
Ben c'est comme pour le père.
J'entends des fois des gens qui me disent j'adore Hachem, mais par derrière tu dois faire des trucs abracadabrant.
C'est comme pour le père.
Parce qu'on va expliquer. L'enfant. On va expliquer, non mais ça va être beaucoup plus complexe que ça. On va expliquer ça, on va rentrer dans les détails. Il y a des niveaux, d'accord ? Il y a des niveaux de Ahava Veta Anugi, Ma Papa, il y a beaucoup de niveaux qu'on va essayer d'expliquer ici. Alors on y va. Ktiv, c'est écrit dans Shir HaShirim, chapitre 7. Mayafit ou Manahamt. Ahava, Beta Anugim. Page 251.
Oui,
250, c'est
la page.
En bas. Tiens,
David. Ah, d'accord. C'est bon.
Ktiv, c'est écrit dans Shir HaShirim. Mayafit, Umanahamt, Ahava, Beta Anugim. Que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il parle à Kadosh Baruch Hu, il dit combien c'est beau et combien c'est agréable, Ahava, Beta Anugim, d'avoir cet amour qui m'amène du plaisir envers toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que. Ce qu'on va expliquer ici, c'est que quand on est amoureux de quelqu'un, je vais donner des exemples. Quand on est amoureux de quelqu'un, il y a deux étapes. T'as une étape dans laquelle tu cherches et t'as une étape dans laquelle tu as trouvé. Je vais donner un exemple, d'accord ? Pour illustrer ça. Je vais illustrer ça avec une vraie histoire qui s'est passée. Vous avez en Israël, ça fait quelques années que c'est passé, ça fait je crois 8 ou 9 ans que ça s'est passé. Il y avait un rescapé de la Shoah. qui a réussi par Yad Vashem à retrouver un fils à lui. D'accord ? Il a réussi à retrouver un fils à lui qui vivait en Argentine ou je ne sais pas où. Donc il a réussi par hasard, enfin on sait qu'il n'y a pas de hasard chez nous, mais il a réussi à trouver un enfant lui qui était rescapé.
Je l'ai déjà raconté.
Et donc, je ne sais pas si je l'ai raconté ici. Et donc il a réussi à trouver un fils qui était rescapé, Baruch Hashem. Et donc, bien sûr, Yad Vashem a payé le voyage pour amener ce fils. Et bon, c'était toute une histoire comment il a trouvé. Et ce rescapé, après, a écrit un livre dans lequel il raconte son histoire. Il raconte comment ça s'est passé. Il raconte la Shoah, il raconte comment ça s'est passé. Un livre en hébreu. Et là-bas, dans ce livre, il raconte comme ça. Il raconte, il dit que quand il a reçu son fils, il dit, il y avait avant que mon fils arrive, et il y avait quand mon fils est arrivé. Il est parti le chercher à l'aéroport. Il dit, avant que mon fils arrive, je sentais une soif. J'attendais une chose, que l'avion arrive, que je le vois, que je sois en vie pour le voir. Et il dit après, dès que mon fils est atterri et qu'il a couru dans mes bras et que je l'ai pris dans mes bras, il dit, j'ai senti un moment comme un grand vide, mais un bon vide. Ça veut dire un moment dans lequel je recherchais plus rien, j'avais ce que je cherchais. Et j'ai entendu une fois un cours du Rav Stendhal, dans lequel il expliquait qu'on peut utiliser cet exemple-là hein, pour illustrer les deux catégories d'amour. Tu as une personne qui cherche l'amour, et tu as la personne après qu'il a trouvé l'amour. C'est valable dans tout, c'est valable avec une femme, c'est valable avec des enfants, c'est valable avec tout. Ça veut dire qu'il y a, quand on recherche la chose, il y a comme une sorte de soif, on parle de soif. Et après, il y a une deuxième phase qui est Ahava Beta Anugim, c'est quand il y a le plaisir. Ça veut dire que quand il y a le plaisir, ça veut dire qu'on a trouvé déjà ce qu'on cherchait. L'extase. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech ? Shlomo HaMelech, il dit combien c'est beau et combien c'est agréable d'avoir l'amour du plaisir. Donc l'amour du plaisir, vous avez compris de quel amour il parle. Il parle quand il est à la recherche ou quand il a déjà trouvé ?
La recherche.
Ah non, l'amour du plaisir.
Ah, c'est qu'il a trouvé.
C'est qu'il a trouvé. C'est ce qu'on va expliquer. On va expliquer qu'en vérité, chacun de nous, quand on cherche quelque chose, on passe obligatoirement par ces deux étapes. Ça veut dire, pour avoir le plaisir de trouver, il faut d'abord avoir cherché. Sinon, t'as pas le plaisir de trouver.
Mais t'avais pas raconté cette histoire-là, enfin, d'un rescapé de la Shoah, qui avait son fils en Argentine, qui était milliardaire, il retrouve son fils.
Ah, Marcel,
ah,
j'ai
pas mis. Ah, oh là là. Oh. Ah, c'est une surprise, ça.
Il a dit, quand je dois partir, je veux que tu me ramènes dans l'Israël.
Parce que non, c'est pas moi qui ai raconté.
Je sais plus.
Hein, non,
ok. Donc, allez, viens, Marcel. Quoi la cavode. Donc, on va essayer d'expliquer. Iné. T'as fallu faire des modifications de calendrier de...
Non, c'est pas ça.
Bon, alors, qu'est-ce que tu as raté à la télé ce soir?
Rien. Ah. Ça va.
Allez.
Alors, Tiv, c'est écrit. Mayafit umanaamt ahava betaanugim. Donc c'est écrit dans Shira Shirim que Shlomo HaMelech, il parle à Kadosh Baruch Hu, il dit combien c'est beau à Kadosh Baruch Hu de t'aimer. Comme ce qu'on a expliqué, on a dit que dans l'amour, il y a quand on cherche une chose et quand on a trouvé. Ah, on va expliquer à l'oral.
Oui,
écoute. Iné. Bet miné ahavot en. Il y a deux catégories d'amour. Quand on cherche quelque chose, quand on aime quelque chose, il y a deux catégories d'amour. Ça peut être même pour manger. Ça peut être pour tout ce que vous voulez. Par exemple, quelqu'un qui a envie, je ne sais pas moi, il a envie d'un steak. D'accord ? Donc, il va faire tout Paris pour trouver son steak ou pour trouver son casse-croûte tunisien à Belleville. D'accord ? Parce que les Tunisiens sont en l'honneur ce soir. Donc, il a une soif. Non, attendez. Il a une soif. Il va prendre la voiture, l'embouteillage, la neige. Ah, il va y aller. Il veut son truc. D'accord ? Il y va. Il fonce. Il a peur de personne. Là, il a la soif. Après, il arrive. Il arrive dans le magasin, il commande le plus gros train, pas du sûr qu'il a envie alors.
Il arrive il dit, attendez,
il arrive, il commande le plus gros sandwich qu'il peut trouver, avec le plus d'options qu'il peut mettre dedans. Il le mange, il les mange, on dirait qu'il va manger un bœuf, d'accord. Et après quand il a mangé, il s'arrête, il fait...
Qu'est-ce que c'était bon.
D'accord. Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'avant, il était en mode soif. Il avait la soif de quelque chose. Quand il a eu ce qu'il voulait, il a passé en mode ta'anoug, le plaisir. Le plaisir d'avoir obtenu ce qu'il voulait. C'est deux étapes qui sont liées, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est deux étapes qui sont, un c'est avant et pendant, l'autre c'est après.
Il y a une différence quand même.
Pourquoi hein ?
C'est celle de l'envie, il va chercher longtemps. Il est prêt à chercher longtemps pour l'avoir. Que ta'anoug, une fois qu'il l'a eu... C'est bien donc le lendemain, ça peut passer à autre chose.
T'as raison, c'est vrai, oui, c'est sûr. Le Tanouk peut être très rapide.
Oui,
c'est sûr, t'as raison.
Coca.
Alors il dit comme ça. Il dit, mais ça c'est comme ça dans toute la vie. Combien de temps on prend pour préparer un plat?
Ça dépend lequel, mais ça prend du temps.
Et combien de temps prend pour le manger?
Plus de temps pour le préparer que pour le manger, c'est clair.
Donc les préliminaires prennent beaucoup plus de temps que le plaisir, c'est normal.
C'est vrai.
D'accord? Dans toute la vie, c'est comme ça. Donc on va parler aujourd'hui de la Ahava, l'amour quand on prépare, et l'amour de Tarnougim du plaisir. Alors on y va. Iné.
De l'eau.
Et pas de boucha pour moi, frère.
Une fois, tu vas boire de la boucha quand même.
J'ai déjà vu, mais j'ai.
Mon avis, tu sais que je mange la boucha qu'avec toi. Je mange la tamroute qu'avec toi.
Je mange pas la peau.
Ah ouais, d'accord. Mais je rigole, mais la dernière fois, j'ai mangé la peau. Alors, c'est quelle boucha?
Chacol, c'est du poisson.
C'est du poisson.
T'as une deuxième pellicule à retirer si tu veux.
Mais en fait, est-ce que les poissons sont cachés? C'est ça le problème?
Bah, au fatadna, il y a des poissons. Les poissons, c'est quoi? Chez Chacol, il n'y a plus de vent.
Mais non. Comme si tu
sais pas c'est quoi, tu fais Chacol. Non, c'est des œufs de poisson.
Mais c'est bien de manger avec.
Ah, un salé.
Oui, c'est quelque chose qui se. Ça se mange pas brut. Non.
Je vais faire sacrilège, hein.
Non, ça se déguste. Ça se déguste.
Non, ah, non, non, c'est-à-dire que ça marche pas brut. Brut, non, c'est-à-dire pas brut avec un truc, parce que c'est trop...
Ah, c'est on y va.
Voilà,
c'est ça. Non, c'est bon.
Iné, on y va, on n'a même pas commencé dans les mots.
On va des œufs de mulet, ou pas.
On a juste fait l'introduction. Iné, bet miné à avot en. Il y a deux catégories d'amour, ce qu'on a expliqué, ça veut dire... La catégorie de l'amour quand je suis en train de chercher l'amour, et après le plaisir que j'ai une fois que j'ai obtenu ce que je voulais. On va expliquer maintenant dans notre vie comment on retrouve ça. A Aleph, la première, Ahava Beta Anugim. J'ai la première directement parce que ça c'est le but. En vérité, quand on cherche l'amour, on cherche le plaisir qu'il y aura à la fin. Donc on va expliquer d'abord le plaisir qu'on recherche, et après on va expliquer comment on le recherche. Donc la première, c'est Ahava Beta Anugim, c'est l'amour du plaisir. Dainu, ça veut dire... C'est quand on arrive à avoir des moments dans lesquels on est heureux d'être juif. Ça peut arriver des fois. Ça veut dire que on quitte la routine, t'es pas dans la routine, t'as un moment dans lequel tu te lèves, t'as un Shabbat, tu dis, je suis heureux d'être un juif, d'avoir un Shabbat. T'es une simcha.
C'est pas une fois, ça peut être souvent, c'est souvent.
C'est pas souvent, bien sûr. On va expliquer d'où ça vient, ça. C'est une simcha. C'est pas quelque chose que t'as recherché, c'est tu te lèves, t'es bien. Simchat nefesh vekaluta beta'ama kitov hashem une'im ne'imot arivot adle'aflin. Et tu sens que c'est bon, t'es content, c'est agréable. Mais ein olam haba, ça veut dire presque on te dit le olam haba, tu dis moi le olam haba je l'ai déjà ici, je suis bien. Chez nehenim, d'accord, parce que la Gemara pose la question, elle dit qu'est-ce qui se passe au olam haba, qu'est-ce qu'on attend au olam haba. La Gemara dit comme ça, dit olam haba. Les tzadikim, ils sont assis, ils étudient, vene ni misi la shrina, et ils profitent du rayonnement de la shrina. Chaise longue, ils profitent du rayonnement de la shrina.
Donc ils sont dans l'extase.
Ça veut dire qu'en vérité. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, je voudrais d'abord vous expliquer où on veut arriver ici. On veut expliquer qu'en vérité, dans la vie d'un juif, l'extase, c'est pas vraiment pour maintenant.
C'est pas ?
C'est pas pour maintenant.
C'est pour après.
C'est pour après.
Si Dieu veut.
Maintenant, on travaille.
Mais non, dans la recherche.
Non, dans la recherche. D'accord. Bah oui. Mais,
ce
qu'il va expliquer, c'est que quand même, à Kadosh Baruch Hu, au Tzadikim, il leur donne cette chance tous les jours. À nous, il nous donne cette chance de temps en temps. D'avoir un moment de plaisir comme ça pour te booster, tu vois. Parce que si t'es là à bosser sans rien sentir, à un moment, tu craques. Donc à Kadosh Baruch Hu, pour t'aider, il te donne de temps en temps un petit sentiment de plaisir. T'es content de ce que tu fais. T'es bien dans ta peau. Mais en vérité, le vrai sentiment de plaisir, c'est pas ici.
C'est pour après.
Pour après.
Bon, mais c'est top. D'accord. C'est pour après, c'est déjà pas mal.
C'est pas mal. Attends, on va expliquer.
Oui, mais il faut passer par les petits plaisirs de temps en temps pour...
En vérité, le petit
plaisir... Pour savoir après, ça va être mieux.
Non, le petit plaisir, t'as des gens...
Si t'as pas de petit plaisir, tu fais pas.
C'est une bonne question que tu poses. T'as des gens qui ne passent pas par ce petit plaisir.
Ah ouais.
T'as des gens qui... On va expliquer plus tard. T'as des gens que toute leur vie, ils ont toujours bossé, excusez-moi du terme, comme des chiens.
Ouais.
D'accord. Et ils n'ont jamais ressenti un plaisir. Ils vont naître comme ça, mourir comme ça. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu estime que ces gens-là, ils sont solides et ils peuvent tenir, même si on les booste un petit peu avec un peu de plaisir. Parce qu'en vérité, le vrai plaisir, c'est en haut.
Ouais.
Seulement, comme à Kadosh Baruch Hu, il sait qu'on est faible, alors de temps en temps, il nous met du plaisir. Si voilà, kiffe un petit peu, comme si tu repars. Mais en vérité, le vrai plaisir, c'est pas ici. C'est-à-dire, quand t'as une personne, quand t'as une personne qui bosse très dur, et il a que des galères qui lui tombent sur la tête, c'est-à-dire, c'est, il prend aucun plaisir, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement capable, qu'Akadosh Baruch lui fait confiance.
Donc, tu veux pas dire
que tu j'ai pas dit, attends.
Non, pas quand je dis réussir.
Avoir du plaisir.
Voilà.
Bien sûr.
Ouais, c'est... Et quelqu'un qui, part tout, qui passe tout le temps à travers les gouttes.
C'est qui t'as
que tu viens par là.
Attends. Oui. Non, parce qu'il y a toujours de la chance.
C'est pas de la chance, mais qui passe tout le temps à travers les gouttes. C'est-à-dire, c'est des fois, c'est des gouttes qui peuvent lui faire mal, mais. Ah, c'est Dieu, c'est.
Mais que veut dire par là qui passe à travers, je comprends pas.
Ça veut dire que si ça veut dire que si ça ne lui arriverait pas, il n'aura pas
de. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment de réelle galère dans sa vie, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire.
Il frôle la galère.
Voilà, mais il est à côté, hein, ouais.
Ouais, mais il est toujours dans la galère.
Écoute, il y a des gens qui sont nés pour être fonctionnaires, et des gens qui sont nés pour être entrepreneurs. Enfin, j'ai rien contre les fonctionnaires, hein. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a une nature de fonctionnaire, tu vas lui demander d'ouvrir une affaire, il va craquer. Quelqu'un qui a une nature entrepreneur, tu vas lui demander de rester dans un bureau à faire un travail, la même chose pratiquement tous les jours, il va craquer. Ça veut dire que chacun a sa nature. Et le travail de l'un est une souffrance pour l'autre. C'est comme ça. Ok. Donc il dit ici... Donc, Valze et sur ça c'est écrit « Simchut tzadikim bashem ». Il y a un pasouk dans Teilim qui dit « Simchut tzadikim badonai vehodu lezecher kocho ». Traduction du pasouk. « Simchut tzadikim bashem ». Les tzadikim se réjouissent dans Dieu. Ça veut dire quoi se réjouir? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, il nous donne ce sentiment de simcha, de la joie du travail qu'on fait. Mais il dit tout de suite, attention, il dit, Velo kol adam zoche laze. Pas tout le monde a le mérite d'arriver à ça. C'est un srout, c'est un mérite. C'est un mérite de pouvoir ressentir la simcha, un avant-goût de ce qu'il y aura plus tard. Pas tout le monde a ce mérite.
Il y a des gens... Alors qu'ils ne venaient pas, certains ne le ressentent pas parce qu'ils sont assez forts. Finalement, oui. On a l'impression que c'est eux qui sont plus méritants, quand tu dis ça.
Mais concrètement, ils souffrent beaucoup.
Oui, mais donc s'ils ne donnent pas, et que c'est parce qu'ils peuvent tenir sans, c'est-à-dire que finalement, ils ont plus de mérite que ceux qui ressentent de temps en temps.
J'ai compris, mais d'un autre côté, ce que tu peux comprendre aussi, c'est que ça veut dire que tu as une personne qui a tellement ramassé, que tu peux lui donner un petit peu, ça ne touchera rien. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire
que t'as une personne, imagine-toi, il a tellement cotisé pour la retraite, quand on lui dit, bon, comment ça prend maintenant, parce que...
Si tu lui donnes pas de temps en temps un petit flash ou quelque chose, il partirait...
Mais Emmett, c'est une très bonne question que tu poses, parce que dans un autre chapitre, l'Edmor HaZaken explique que quand on réfléchit, le Beinoni, c'est-à-dire celui qui n'est pas tzadik, il a un niveau qui est beaucoup plus fort que le tzadik. Pourquoi? Pourquoi? Je t'ai expliqué pourquoi. Parce que le tzadik, il kiffe ce qu'il fait. Parce qu'il voit du résultat. Le Beinoni, c'est-à-dire le juif simple, quoi, le juif comme nous, qui est là, qui essaye de faire ce qu'il peut, mais que concrètement, bon, il voit pas toujours le résultat. Il voit pas le résultat de ce qu'il fait. Donc c'est vrai que...
Mais il fait quand même.
Et il fait quand même.
Non, mais encore plus celui qui est Beinoni, qui nous ressemble
donc
même pas.
Donc le tzadik, en vérité, a moins de sroute. A moins de sroute. Ça veut dire que le tzadik, on le jugera pas sur la qualité, on le jugera sur la quantité. Nous, ceux qui ne sommes pas tzadik, on nous juge sur la qualité. C'est-à-dire même si t'as fait un peu, mais t'as mis tout ton cœur dedans. Mais le tzadik, c'est facile pour lui, parce qu'il voit le résultat. Lui, on va le juger, on lui dit, bon, bah toi, puisque c'est facile, alors tu dois faire des longueurs. Donc c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, comment on expliquer, c'est pas les mêmes voies du tout. Alors on va rentrer dans les détails maintenant. Velo kaladam zochelazé. Pas tout le monde mérite, ça vous avez dans les mots?
Oui.
Dernière ligne. Velo kaladam zochelazé. Vezo iprinat kahana bereuta deliba shebezohar akadosh. Donc ça, c'est dans le Zohar, il appelle ce niveau-là le niveau du Kohen. C'est quoi le niveau du Kohen? Le Kohen, c'est l'amour. C'est-à-dire, le Kohen, c'est quand Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, il nous donne le plaisir de faire ce qu'on fait. Et là, on dit qu'à ce moment-là, on passe en mode Kohen. Comme ça, explique le Zohar. On va expliquer. Valze Neymar, Avodat Matana, Vehazar Akarev, Ki Yen Derech La Siga, Aliede Yegiat Basar. J'explique ce qu'il dit ici. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, à propos du travail des Kohanim, il dit que c'est un cadeau qu'il a donné au Kohanim. C'est un avodat matana, c'est un cadeau. Et c'est mamash la définition de ce qu'on est en train d'expliquer ici. Le fait que des fois dans la vie on ressent un plaisir de faire ce qu'on fait, c'est un cadeau. Mais est-ce que c'est bien d'avoir un cadeau? Il y a des gens qui ne supportent pas recevoir des cadeaux.
Cadeau, c'est mérité.
Pourquoi? Attends.
T'as peur de se décourager?
Pourquoi? Non, très simple. Non, c'est écrit, il y a un verset dans Michelet qui dit « Sonnez matanot irie ». Celui qui haït les cadeaux vivra.
Il sera obligé après de...
Pourquoi?
Ça dépend de quel cadeau, ça dépend de...
Il y a des gens qui ne supportent pas les cadeaux. Tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils profitent, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé pour l'avoir. Pourquoi? Parce que la Gemara dit comme ça. La Gemara dit qu'un homme préfère une mesure pour laquelle il a travaillé que 10 mesures qu'on lui a données. On le sait, quand par exemple j'ai un dessin que c'est moi qui a fait, même si c'est un dessin qui casse pas des briques, d'accord, je préfère ça qu'un dessin que je vais acheter. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'a fait. D'accord?
Moi, ça dépend. Ça dépend, après.
Sur quelques trucs, je préfère ressortir.
Parce que le tien, on l'achètera pas, mais alors l'autre.
Ça n'est pas fatigué.
Imagine-toi que tu as gagné au loto.
Ton tableau, on l'achètera pas.
Imagine-toi que tu as gagné au loto. C'est pas l'argent que tu as gagné. Pas l'argent que tu as gagné avec la sueur de ton front. C'est l'argent qui est tombé.
Mais je ne dis pas comme ça, c'est ça.
T'as raison, je comprends.
J'ai pas renié, j'ai pas dit ah non, j'aurais dû travailler dans ma vie pour avoir 150 millions.
Tu gagnes. Tu gagnes de l'argent, mais t'as pas le plaisir du labeur. Il y a un plaisir quand on s'est fatigué pour arriver à quelque chose.
C'est sûr qu'il y a un plaisir.
Tu gagnes.
Il y a un plaisir.
Je
sais que, regarde, même dans le boulot, quand tu t'es crevé par exemple pour avoir un contrat, pour décrocher un contrat. Quand tu t'es crevé pour arriver à un résultat, tu t'es crevé, tu t'es dormi très très tard, tu te lèves très très tôt, vraiment tu te crèves, tu mets toute ta force dedans. Quand tu réussis à arriver au projet, tu as un sentiment de plaisir. Ouais, que tu n'as pas si ça s'est passé comme une lettre à la poste.
T'as ton premier choix, je veux dire. Pas mieux que moissonnier pour ceux qui travaillent la terre.
Exactement.
Je lui dis voilà, sache que tu travailles ta terre, mais j'ai un produit qui peut doubler ta truc. Tu crois qu'il va pas le prendre?
Bien sûr.
Mais il va travailler quand même. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois bien qu'un cadeau ou un truc comme ça, même si... Ah non, je préfère... Il va l'accepter quand même.
Je te racontais une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a raconté qu'une fois, pour illustrer à ses élèves la notion qu'on va lui expliquer, il a dit, une fois, il y avait un roi qui voulait illustrer à ses ministres l'importance du labeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le champ, et il a vu un homme qui est en train de travailler avec une faucille. Pour couper, il est en train de moissonner. Alors il lui dit, est-ce que tu veux venir travailler chez moi? Pas de problème, il s'est dit, je vais travailler dans les jardins du roi, certainement. Elle lui a dit, prends ta faucille avec toi. Il l'a mis dans son palais, il a donné une pièce. Il lui a dit, tu fais le même geste que tu fais avec la faucille, toute la journée. Et je te paye 10 fois ton salaire. Il est content, il a dit quoi? En plus, il n'y a rien à couper, je suis là à faire comme ça. Il a fait ça, 1 heure, 2 heures, 3 heures, du Baal Shem Tov, au bout de 3 heures, il a craqué. Il est venu voir le roi, il a dit, désolé, même 20 fois, je prends pas. Pourquoi? Parce que je sens que je fais rien.
Bah oui, qu'il est...
Mais pourtant pareil, tu vas me dire, mais attends, pourtant tu vas me dire, mais pourquoi tu travailles? Pour gagner de l'argent. En tout cas, tu vas gagner 10 fois plus, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pas qu'est-ce qu'on a à faire, il n'y a pas de résultat. J'ai pas travaillé pour ça, j'ai pas sué pour avoir ce résultat. Ça veut dire que ce qu'il veut t'expliquer ici, c'est que recevoir un cadeau, c'est-à-dire quelqu'un qui a la chance, et que tout ce qu'il a, comme tu as dit, ce qui passe entre les gouttes, c'est des gens qui ne savent pas apprécier la chance qu'ils ont. Quelqu'un qui est né... avec, comme ils disent en hébreu, la cuillère en argent, d'accord? C'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est la valeur de l'argent, parce qu'il n'a jamais travaillé pour avoir de l'argent. C'est ce qu'il te dit ici. Il te dit ici que le Kohen, dans le Zohar, il est comparé à Matana, un cadeau. Et c'est pour ça que, quand une personne, parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné un cadeau, le pouvoir de bénir. Et c'est pour ça qu'il te dit ici, quand Akadosh Baruch Hu nous donne des fois dans la vie, ce sentiment de simra qui vient comme ça, on ne sait pas d'où vient, à un moment tu te lèves, t'es content d'être juif, t'es content, t'es heureux dans ce que tu fais. Il te dit, sache que c'est un cadeau. Et un cadeau, ça veut dire que t'auras pas forcément du plaisir. C'est peut-être mieux de pas l'avoir ce cadeau.
Ouais.
D'accord.
Cohen, non?
C'est peut-être mieux de pas l'avoir. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu te le donne? Parce que Akadosh Baruch Hu est conscient que des fois, il faut te donner quelque chose, parce que sinon tu vas craquer. Donc, de temps en temps, Akadosh aurait dit, bon, tu sais quoi, celui-là, on va le booster un peu, on va lui donner un petit sentiment de, il va être heureux, on va lui donner une petite satisfaction. Mais en vérité, le mieux, c'est d'avoir de la satisfaction que suite au labeur. En voyant le résultat. Or, le résultat de nos mitzvot, on ne le voit pas ici. Où on le verra, le résultat de nos mitzvot? En haut. Donc, ça veut dire qu'en vérité, normalement, le résultat de notre labeur, on ne peut pas le voir ici. Donc, on devrait pas pouvoir être besimcha ici. Besimcha de notre travail. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il nous le fait de temps en temps pour nous permettre d'avancer.
Non, on peut ressentir quand même un bonheur.
C'est rien par rapport à ce que c'est.
D'accord, mais on peut ressentir. Quand on était fier d'avoir fait compléter Mignon, on l'a fait. Ou...
Alors, ce qu'il te dit, c'est que cette fierté, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. T'as des gens qui en ont rien à faire. T'as des gens, il était 10e au Mignon, ça lui fait rien du tout, ni chaud ni froid. Parce qu'il n'a pas besoin de ça. T'as des gens, c'est bon, c'est 10e alors.
Il fait rien. Parce qu'il se rend peut-être pas compte qu'il est.
Non, pas forcément.
Que
parce que.
Il
parce
connaît
que...
pas la valeur de.
Non, il connaît la valeur. Pas du tout. Parce que c'est un cadeau, d'accord?
Non, je cherche le temps.
Parce que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui ont ce cadeau, il y a des gens qui n'ont pas ce cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. même dans notre propre vie. Des fois, il y a des moments dans lesquels tu es heureux, et des moments dans lesquels c'est... Voilà, j'ai mis les tefillines ce matin, ça m'a rendu heureux. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est... Je sais pas, ça m'a pas rendu ni plus heureux, ni plus triste, ça a pas bougé.
Si on avait pas mieux, on aurait été malheureux.
D'accord ? Imagine-toi un matin, tu mets les tefillines, tu dis « Ah, quelle chance d'être juif ouais, !» Mais... Tout ça t'est tombé.
Excuse-moi, si j'en ai, mais après, si on réagit comme ça, ça devient du marasser.
Par rapport au cours il y a deux semaines. Parce tu as raison, oui. Tu as raison.
Parce que du contraire, tu me dis à Voda, il faut qu'il sente ça le...
Oui, il faut qu'il sente ce travail, bien sûr, ouais. Oui, tu as raison, c'est vrai. Tu as raison, mais concrètement, ben, ça dépend sur quoi on bute. On revient à ce qu'on a expliqué il y a deux semaines. Donc, « Kemoa ir'a, sh'sho'alim alea, yagata be'ir'a, ve'oy levasar, sh'lo nitagia be'ir'a, kemo sh'katouf bereshit chokhma. » Aval, donc, « Kemo sh'katouf, im tevakshena kakesef, elamet sh'tzricha igar abba vatsuma, ki mechapes acha otzarot. » Je vais expliquer ce qu'il dit ici, c'est très intéressant ce qu'il dit ici. Il dit que sur ça, on a une différence entre la crainte et l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que la crainte de Dieu, ça c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Ça veut dire que si je vois que j'ai pas la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la Gemara te dit, tu dois te fatiguer, et tu dois réfléchir. Tu dois te dire, regarde ce qui arrive quand tu n'écoutes pas Akadosh Baruch Hu. Regarde comment Akadosh Baruch Hu est présent partout. Regarde comment Akadosh Baruch Hu est. Et la Gemara, vous savez ce qu'elle dit ? Elle dit que ça c'est Yegia Rabba Vatsuma. Messieurs, allez, restons concentrés. Elle dit que ça c'est Yegia Rabba Vatsuma. C'est une grande fatigue. Pour craindre Akadosh Baruch Hu, d'accord ? Pour craindre Akadosh Baruch Hu, c'est une grande fatigue. Parce que tu me dis d'avoir peur de Dieu. Et si j'ai pas peur de Dieu, qu'est-ce que je fais ?
Ah, mais là, si t'as pas peur de Dieu, t'as aucune pratique, t'as rien.
Attends, je fais une question. Tu me dis, si j'ai pas peur de Dieu, qu'est-ce que je fais ?
C'est pas compatible.
Est-ce qu'on peut donner à quelqu'un un ordre de craindre quelque chose ?
Ben, oui.
Si c'est compatible,
tu vois. Oui, tu penses ?
La majorité des gens, ils pensent.
Marcel, est-ce que tu aimes la boucha ?
Pas du tout.
Non.
Est-ce que je peux donner un ordre d'aimer la boucha ?
Non, c'est pas pareil.
Pourquoi ?
Et alors ? Quoi ? C'est un sentiment de crainte.
Est-ce que je peux donner un ordre ?
Matériel, c'est pas,
est-ce que je peux donner un ordre de boire la boucha ?
Oui, tu peux me donner un ordre.
Mais est-ce que je peux donner un ordre d'aimer la boucha ?
Bah oui, tu peux donner le même ordre.
Écoute, mais c'est pas obligé de... Réfléchis à la question. Non, réfléchis à la question. Je peux te donner un ordre de boire la boucha.
La boucha, c'est bien un ordre.
Même si tu l'aimes pas. Mais est-ce que je peux te donner un ordre d'aimer la boucha ?
Mais tu l'aimes pas.
Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Alors si t'as quelqu'un qui vient voir, il dit « Monsieur le rabbin, j'ai un problème, j'ai pas peur de Dieu. » Si j'ai pas le rabbin.
Qu'est-ce que ça veut dire avoir peur de Dieu ?
Alors. Ouais. Il dit « J'ai pas peur de Dieu. »
Ça veut dire quoi, monsieur, avoir peur de Dieu ?
Alors, très bonne question, d'accord ?
Voilà, moi je veux bien comprendre. Qu'est-ce que
alors,
ça veut dire ?
C'est ça ma question.
J'ai peur de recevoir une traha.
Alors, oui, ça il dit comme ça. D'accord ?
Si je fais pas.
Ouais. Qu'est-ce que tu sais ?
Même deux.
Vous en savez ? Et si tu sais pas, c'est quelqu'un qui dit « Moi je crois pas. »
Hein ?
Je crois pas. C'est pas que je crois pas, c'est que j'ai pas peur.
Non.
Je crois en Dieu, mais j'ai pas peur.
Mais c'est quoi déjà même la notion d'avoir peur
et voilà. De pas avoir peur, c'est pas
la Gemara dit sur la notion de crainte.
Qu'est-ce que c'est
elle dit que la crainte est quelque chose qui est très difficile à venir. C'est beaucoup plus facile d'aimer quelqu'un que de craindre quelqu'un. Pourquoi ? Parce que aimer c'est un sentiment positif, on a envie d'être proche de quelqu'un.
Ça dépend.
D'accord ? J'y arrive, deux secondes. Craindre quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile, surtout quand c'est quelqu'un avec qui on a une proximité. Par exemple, aimer sa femme, c'est plus facile que...
De la crainte.
Craindre sa femme,
oui,
j'espère.
En général, les deux, ils marchent ensemble.
Ouais, ouais. Je suis pas...
J'attendais.
Comptez-vous.
Plus il y a une proximité...
L'un n'empêche pas l'autre. Hein.
Plus il y a une proximité... L'un n'empêche pas l'autre, exactement.
Non, ça va obligatoirement ensemble.
Le Zohar dit, il y a deux côtés dans le cœur. Il y a un côté pour l'amour, un côté pour la crainte. Il dit, tu peux avoir d'un côté l'amour, l'autre côté... Donc, le... Ah, c'est bon, David, développé là. D'accord ? Hein ? C'est bon, viens, on va développer.
Non, j'en veux pas, c'est pas moi qui prends
le. Donc, il te dit comme ça, la Gemara dit à propos de la crainte, pour répondre à ta question, Michael. La Gemara dit que la crainte, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir. Ah, qu'est-ce qui fait quelqu'un s'il n'aime pas ? Comment Dieu peut me donner un ordre de craindre Akadosh Baruch Hu ? Explique Rambam, il dit, la mitzvah, c'est pas de craindre. C'est de te mettre en condition pour craindre. Ça veut dire, si tu te rends pas compte que tu crains pas Akadosh Baruch Hu, tu dois réfléchir. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que représente Akadosh Baruch Hu dans ma vie ? Qu'est-ce que représente Akadosh Baruch Hu pour moi ? Je dois réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je dois réfléchir à comment Akadosh Baruch Hu se trouve partout. Et avec beaucoup de fatigue, je finirai par craindre Akadosh Baruch Hu. Parce que dit la Gemara comme ça, je vais vous montrer comment craindre Akadosh Baruch Hu, c'est très dur. Attends, c'est quand j'y arrive. La Gemara là-bas, j'arrive, laissez-moi arriver. La Gemara dans le traité Brachot, elle dit comme ça. Elle raconte que lorsque Rabbi Yochanan allait partir chez Hachem, donc il était sur son lit, il allait bientôt partir, Il était très conscient, il y avait ses élèves à côté de lui, et ses élèves lui ont dit, Rabbi, bénis-nous. La bracha avant de partir. Et le rabbi leur a béni, donc le rabbi Yohanan leur a béni, il leur a dit, je vous mets mes enfants, je vous donne la bracha, que vous craigniez Dieu comme vous craigniez les hommes. Et il s'arrêtait là.
C'est une grosse part.
Alors, les élèves, ils ont dit, mais rabbi, c'est tout. Il leur a dit, sachez que je viens de vous donner une grande bracha. Il dit, regardez, il dit, pourquoi? Il dit, parce que lorsqu'un homme fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourvu que personne ne m'a vu.
Exactement.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a plus peur des hommes que de Dieu. Si au moment où il faisait la avéra, il avait peur de Dieu comme des hommes,
il
l'aurait pas fait. Ça veut dire qu'on a plus peur des hommes que de Dieu. Donc c'est une bracha énorme de dire que on va craindre Akadosh Baruch Hu comme on craint les hommes. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Pour montrer que pour craindre quelqu'un, tu dois avoir le sentiment que c'est concret. Pas quelque chose d'abstrait, que bon, je sais pas ce que... Il faut avoir le sentiment de concret. Comme quelqu'un m'a vu, il m'a attrapé en flagrant délit, c'est concret, il m'a vu. Il n'y a pas où aller. On est d'accord? Ça, c'est Yir'a. Eh ben, il te dit ici, la Gemara te dit que pour arriver à Yir'a Tachem, pour arriver à la crainte de Dieu, ça, c'est quelque chose qui vient avec le travail d'un homme. Ça, c'est pas un cadeau de Dieu. Et Yir'a Tachem, c'est Avoda. Ça vient par le travail. Il faut travailler très très dur pour la crainte de Dieu.
La crainte, ça vient par l'amour.
D'accord? Pas du tout.
Pas du tout.
Ça n'a rien à voir. Au contraire. Et dans le chapitre 41 du Tania, ça fait 4 ans qu'on a étudié, il dit que c'est exactement le contraire. Il dit que pour aimer vraiment, il faut d'abord craindre. Tu sais pourquoi? Parce que sinon, en vérité, tu t'aimes à toi-même. Je donne un exemple pour illustrer ce que je veux te dire. Je vais être un peu cru. Imagine-toi un homme qui est marié. D'accord? Ah d'accord, on va voir ça. Et alors? Imagine-toi un homme qui est marié, qui va avec une autre femme. C'est un exemple qui revient dans les livres. Et qui dit « j'aime l'autre femme ». Est-ce qu'il aime l'autre femme?
Bien.
Je l'aime.
Peut-être qu'il aime plus celle qui est avec qui il est.
Non.
Non.
Il aime pas l'autre femme, il s'aime soi-même.
Pourquoi?
Comme il a envie d'avoir du plaisir.
C'est ça. Ah. C'est pas... Aimer l'autre, c'est différent.
Il aime pas l'autre, il s'aime soi-même.
Il aime le moment qu'il...
J'aime le moment que je passe.
Voilà, c'est pas la même chose.
Donc j'aime pas cette femme, je m'aime à moi. Comme je m'aime à moi, c'est un moyen pour me faire plaisir.
Comment tu es sûr qu'il aime lui?
Oui, mais après quoi? Ça passe à un... Après, ça passe
parce que le vrai amour, ça... le vrai amour, c'est quand c'est pas pour moi, c'est pour l'autre.
Exactement, c'est quand l'autre, il...
Tu comprends? Et ça, c'est pour ça qu'il explique là-bas. C'est pour ça qu'il explique dans le chapitre 41 du Tania. Ça fait longtemps. Il explique, il dit que pour réellement aimer, il faut d'abord passer par une phase de crainte, dans laquelle tu réalises la grandeur de la personne. Et après, tu t'approches. C'est pour ça que dans le monde de la Torah, d'accord, comment on fait? Dans le monde de la Torah, quand on est en période de Shidour, il y a une sorte de crainte, une sorte de distance entre le Khatan et la Kala. Une fois que le Khatan y comprend la grandeur de la Kala, après il y a le mariage. Pas le contraire.
Ouais, mais ça, c'est quand même...
Parce que sinon tu n'aimes pas la personne, tu t'aimes à toi-même. Et une fois que tu as obtenu ce que tu voulais, et que ça ne t'attire plus, t'as plus du plaisir comme avant, c'est fini. Parce que tu n'aimes pas la personne, tu t'aimes à toi.
Ça peut être le contraire aussi. C'est subtil. Ça peut passer par une phase plaisir et puis après par une phase amour.
Ça doit commencer. Ça doit commencer par la crainte. C'est quoi... Même Avraham Avinu, c'est comme ça. Avraham Avinu, qui est le plus grand Avraham Avinu, représente Ahava, Chesed. L'amida d'Avraham Avinu, on a dit c'est quoi? C'est Chesed, l'amour. Et bien même Avraham, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu dit qu'Avraham, il a d'abord commencé par réaliser la grandeur de Dieu. D'abord, il a une sorte de crainte. Après, tu peux commencer à l'aimer. C'est seulement quand tu réalises la grandeur de quelqu'un que tu peux l'aimer. Donc je reviens. Ici, il t'explique comme ça. Il te dit, la ira, la crainte, ça c'est quelque chose qui vient directement suite au travail de l'homme. Ça vient pas tout seul. Il faut un travail très très dur. Personne ne fera ce travail à ta place. Seulement quoi? Quand une personne a fait un travail pour craindre Akadosh Baruch Hu, pour sentir comment Akadosh Baruch Hu est présent dans sa vie, pour sentir comment Akadosh Baruch Hu, je dois avoir sa crainte, je dois avoir peur d'Akadosh Baruch Hu, là, automatiquement, suite à ça, il y aura peut-être un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui est le cadeau de l'amour. D'accord? Peut-être oui, peut-être non. Maintenant, vous avez dit un bon point tout à l'heure, j'ai entendu. Vous avez dit que dans la crainte, il y a plusieurs catégories de crainte. T'as la peur du bâton. Et t'as ce qu'on appelle dans la Torah la crainte révérentielle. Par exemple, imagine-toi, t'as un tzadik qui rentre dans la salle. Bah, on va tous comme ça. Là, t'as peur, il va te frapper.
Non, on sait qu'il va frapper.
Alors, c'est pas, on parle plus d'une peur, on parle d'une crainte.
Oui, mais c'est
quelque crainte. Chose de plus profond.
C'est pas de la crainte, d'accord. C'est un respect. C'est plus qu'un
respect.
Oui, d'accord.
Tu trembles.
Parce qu'un tzadik,
tu trembles parce que tu te sens petit. Tu sens que oui, tu sens que c'est un laser, pas laser, comment ils disent, un radio, ils voient
un rayon. Voilà, on sent vraiment les petits devant lui.
Bah, c'est pour ça que je te dis que j'ai rap quand je vois un
petit peu.
Bah oui.
Parce que je sais tu sens la peur.
Oui, on est.
Tu sens qu'il voit tout ce qu'il y a, et que c'est transparent. Il y a rien. On a une carapace, on forme une carapace. Ça veut dire qu'on donne l'image qu'on a envie de donner. Là, tu trouves qu'il y a une personne, d'accord ?
Il passe au rayon.
Il passe au rayon et voit tout ce qu'il y a dedans.
C'est la même chose quand tu fais vérifier
une Médusa. Pas sûr. Bien sûr. Donc je reprends. Faut pas qu'on perde le fil. On a dit que il y a Ir'a et il y a Ahava. Ir'a, c'est la crainte. Ahava, c'est l'amour. La crainte vient suite au travail de l'homme. La crainte de Dieu ne viendra jamais toute seule. Dieu ne fera rien pour t'inspirer la crainte. C'est toi qui dois faire ce travail de réfléchir tout seul pour t'inspirer la crainte d'Akadosh Baruch Hu.
Même les événements qui arrivent bien ou mal.
Ça passe, ça, c'est rien, ça. T'as des gens, par exemple, qui ont des accidents. Ils disent, bon, je commence à venir à la synagogue, etc. Et après, ça passe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un sentiment. Il n'a pas fait un travail pour ça. Pour avoir la crainte de l'Akadosh Baruch Hu, t'es obligé de réfléchir et de méditer. Sinon, ça passe pas. On le voit, il y a plein de gens comme ça, ils te font des gens qui font rien du tout, ils perdent quelqu'un dans la famille, ils te viennent, un mois, deux mois, trois mois, ils font caddie, après tu le revois plus. Pourtant ils étaient sincères. Oui. Mmh. D'accord? Parce que c'est pas venu suite à leur travail. On les a poussés à faire ça. Les événements les ont poussés à faire ça. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais la ira, ça vient suite à un travail de l'homme. La crainte de Dieu vient suite à un travail de l'homme. Alors que la ahava, c'est l'amour, ça c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est possible que des fois, on peut passer des mois et des années sans avoir du plaisir de ce qu'on fait. Et c'est pas un signe que ça ne marche pas. Au contraire, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas grave.
Au contraire, c'est pas vraiment.
Exactement, c'est même mieux. Non, mais c'est rassurant ce qu'il dit ici. Parce que t'as d'autres personnes qui auraient pu te dire, écoute, si j'ai pas du plaisir dans ce que je fais, il y a un problème. Faut que je change la méthode, faut que je change quelque chose. Sinon... Sache que le peu de plaisir que tu as déjà eu, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, il te le donne, des fois, il te le donne pas pour te booster. Si tu l'as pas donné maintenant, c'est que t'en as pas besoin. Ça, c'est le grand plaisir. D'accord? Le plaisir qu'on a dit, le plaisir de Betaranuki, le plaisir de l'extase. Mais ce qu'il va expliquer plus tard, hein, c'est que le plaisir de l'extase, ça, on a dit, c'est pas tout le monde qui l'a, il y a des gens qui l'ont pas du tout. Mais rappelez-vous ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a la ahava de la recherche. Vous rappelez dans l'exemple que je donnais du, ça, il dit, tout le monde peut avoir. C'est-à-dire la ahava d'être à la recherche de quelque chose. Mais il va rentrer dans les détails, il va expliquer. Ça veut dire, la ahava de sentir, l'amour de sentir que j'ai atteint un but. Ça y est, j'ai atteint un but avec Akadosh Baruch Hu. Ça, peut-être qu'on ne l'aura pas. Ou bien peut-être qu'il y aura pendant des années pendant lesquelles tu ne sentiras pas que tu as atteint quelque chose. Tu vas sentir que tu es à la recherche de quelque chose. Mais que tu as atteint quelque chose, tu as une extase, c'est possible que tu l'auras pas. Parce que ça, c'est ahava beta anuki. Mais le tzadikim, on sait tous les jours. Tu vois, les tzadikim sont toujours là avec le sourire, etc. Quand un tzadik a qu'un sourire, c'est qu'il a senti qu'il a atteint un but.
Non, là, tu en entends dans différentes étapes.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Ouais. C'est un cadeau. C'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu nous fait. Mais ça veut dire, c'est pas un dû. C'est possible qu'il y ait des gens qui l'ont jamais. Tu peux l'avoir une fois par an, une fois par deux ans, une fois par dix ans. C'est imprévisible.
Pas vraiment un cadeau, c'est aussi un travail qu'on a fait avant.
Non. Le travail, ça procure seulement la crainte de Dieu. L'amour, c'est un déclic. D'accord. Mais encore une fois, on a une mauvaise image de l'amour parce que pour nous, l'amour c'est l'attirance. L'amour c'est l'attirance. Encore une fois, comme je dis, ça c'est pas ça. Tu aimes pas la personne, tu t'aimes à toi. Comme je suis attiré, donc j'ai envie d'avoir du plaisir. Donc je m'aime à moi.
La satisfaction que tu en retires.
J'aime pas la personne, je m'aime à moi.
C'est quand
t'aimes tes enfants. D'accord.
Ça c'est
un exemple. Ça c'est un bon exemple. Mais même ça, je te dis, hein. Attends, doucement. D'accord. Non. C'est deux amours différents, ça n'a rien à voir. Mais quand on aime. Ouais. T'as des gens qui ont un plaisir d'avoir des enfants.
C'est un plaisir aussi.
Oui. C'est vrai. Mais là, c'est vrai qu'on parle plus de. Mais tu sais, on dit que le plaisir, l'amour des enfants, hein, vient seulement quand on a recherché la chose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand t'as un bébé, par exemple, qui va naître. D'accord? Tu dis t'as un plaisir. Quel plaisir tu as?
Il ne change pas avec toi.
Non, mais sérieusement, quel plaisir? Du bluff.
Content, mais voilà, c'est
du bluff. Ah, mais excuse-moi, c'est du bluff.
Non, moi, c'est... Dans le fond, t'as raison.
Le plaisir va venir quand on va commencer à galérer. Quand il va te rendre fou pendant des nuits. Quand tu vas le pousser, tu vas l'aider à marcher,
c'est
tu vas l'aider. Pas du tout.
C'est un problème.
Non. C'est un problème, c'est la réalité. D'accord.
Le plaisir, c'est quand il est gentil, que tu joues avec lui et que tu pas juste uniquement quand il pleure.
Pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout.
C'est pas un vrai plaisir, ça. Ah, le vrai plaisir, c'est quand on sent.
Ah, si, t'as des vrais plaisirs avec des enfants quand ils sont à l'écoute, que tu peux échanger avec eux sans
penser à qui pleure. Regarde, Marcel, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Regarde. Tu as un enfant qui commence à parler. Oui. Commence à parler.
Oui.
Les parents, ils sont là comme des fous. Il a dit un mot, il a dit papa, il a dit maman. Ils sont là comme des fous.
Ouais.
D'accord. 2 ans plus tard, l'enfant il parle toute la journée, tu lui dis tais-toi. Qu'est-ce qui a changé?
Bah, le nombre de mots.
C'est deux.
C'est très vrai.
Qu'est-ce qui a changé?
Le nombre de mots.
Et il t'a dit 2-3 mots, tu étais heureux, et là, il dit tais-toi. Qu'est-ce qui a changé? Parce que.
Quoi, quoi? Hein?
Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est très simple. C'est que. Ce qui a changé, c'est que quand l'enfant commençait à parler, pourquoi j'avais du plaisir? J'avais du plaisir parce que j'ai un plaisir de le voir essayer, de faire des efforts pour essayer de dire un mot. C'est pas le mot qui me fait du plaisir. C'est pas papa, maman qui fait du plaisir. Ce qui me fait du plaisir, c'est que je vois qu'il essaye de dire papa, il essaye de former des syllabes. D'accord? C'est la première fois, il essaye de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on a un plaisir quand il fait le premier pas.
Je tire profit pour moi-même.
D'accord?
J'ai rien.
Tu as raison. Mais ce que je vais expliquer par ici, c'est quoi? C'est que l'amour, dans la Torah, doit venir obligatoirement suite à un travail. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Même la femme.
Oui, mais rien
d'accord.
Un enfant, c'est un travail.
Ah, le bébé, il n'est pas tombé du ciel.
Mot, c'est quand un travail, non?
C'est
jusqu'à son premier mot, c'est un
bien
travail.
Tout est un travail, bien sûr. Alors, ce qu'il te dit ici, que pour Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on a dit? La crainte d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est un travail. Ça c'est un travail que si tu ne le fais pas, tu l'auras pas. Personne ne le fera à ta place. Il faut se travailler pour craindre Akadosh Baruch Hu. Regardez par exemple combien de travail on fait avant Kippour. D'accord, Kippour, à quoi on va obtenir un Kippour? On va obtenir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. 40 jours on travaille pour ça. Et les slichot, et le chauffard, et on se met en condition pour arriver à la crainte, pour que tout ça dit Rambam, pourquoi? Pour qu'à un moment il y ait un déclic qui va se faire, tu vas dire, mais attends, c'est Yamadine, il faut se bouger.
Le fait de faire Shabbat, de manger kasher, de faire toutes les mitzvot, c'est quelque part, c'est parce qu'on a la crainte.
Non.
Non.
C'est de la routine après.
Voilà, c'est des malheureux.
C'est pas de la routine. Tu vas au midi chez David ou à la boulangerie, tu choisis pas d'aller à la boulangerie, tu choisis d'aller chez David.
Est-ce que tu t'es posé la question?
C'est pas de la routine.
Excuse-moi. Est-ce que quand tu passais devant chez David, tu t'es posé la question, est-ce que je vais à la boulangerie ou chez David?
Non.
Donc c'est pas un travail.
Bah, si.
Toi, t'étais pas là il y a 2 semaines, c'est dommage.
Avant de venir chez moi, tu rentres chez McDo et tu ressors.
Parce qu'il y a 2 semaines, on n'a pas.
Tu regardes juste le menu.
C'est pas un effort pour toi.
Tu regardes les prix, le menu.
On y va. Donc il dit aval avaraba nofelet avarabazo, on continue dans les mots. Aval mais avaraba avarabazo avabetanu gim nofelet la dame le abilmal milmala blish yachid vekavenla. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué, ce grand amour, l'amour donc de l'extase, qu'on a d'être content de ce qu'on fait. Ça vient chez l'homme, c'est un cadeau du ciel sans qu'on se prépare. Ar verak achar shenitiaga beirat haromemut veigel etachrit mashiuchal asigumena lefi prinat nishmato. Quand une personne s'est fatiguée pour craindre Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu va lui donner ce cadeau. Il dit bon, tu t'es fatigué pour me craindre, maintenant je vais te donner un peu de plaisir, kiffe un petit peu, comme ça tu vas pouvoir.
On parle du même travail qu'on parlait il y a 15 jours.
Non, c'est pas la même chose. Bon, il va expliquer tout de suite. Azai mimela ba'a ahava betanugi milmala lishkon uleitiached imaira ki darko shel ish les hazer que moche me voir be l'écouter à Marie. D'accord, voilà, ça j'ai expliqué à l'oral déjà. Maintenant je vais arriver à Vachinit. Ça c'est très important ce qu'on va expliquer. Bon, donc ce qu'on a expliqué, bon, si le cours devait s'arrêter ici, on aurait dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute ma vie, je peux travailler sans avoir du plaisir? C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors c'est quoi la mitzvah de Ahavat Hashem? C'est quoi la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu? Puisque tu me dis que c'est un cadeau. Il y a deux mitzvahs. Il y a une mitzvah de craindre Akadosh Baruch Hu. Il y a une mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu.
Le cadeau, on peut l'avoir après.
Alors, j'ai compris. Mais il y a une mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu tous les jours. Mm. Alors, c'est quoi la mitzvah? Crainte, ça, tu m'as dit. C'est de me mettre en condition de me dire Akadosh Baruch Hu est grand, Akadosh Baruch Hu est fort, Akadosh Baruch Hu décide tout et attention, etc. Ça, je peux le faire. Mais l'amour, tu m'as dit, c'est un cadeau. Alors, si c'est un cadeau, alors c'est quoi la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu? Eh bien, une mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah de Ira'at Hashem et Ahavat Hashem. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu, on dit dans le schéma, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras. Alors c'est quoi l'amour? Puis tu me dis que c'est un cadeau. C'est quoi, comment un juif il peut aimer Akadosh Baruch Hu? C'est quoi l'amour? Donc là on va devoir définir l'amour. Là, il va expliquer qu'en vérité, l'amour qu'on peut tous arriver, c'est pas l'amour de l'extase, c'est l'amour de la recherche. Ça, on peut y arriver et on doit y arriver. Ça veut dire l'amour de... On sent comme une soif. Comme tout à l'heure, l'exemple qu'on a donné, il y a aussi un autre exemple qui est arrivé dans le Zohar, il y a une personne qui a très soif. Il est comme un fou, il cherche un verre d'eau. Il prend le verre d'eau, il le boit. Qu'est-ce qu'il fait après? D'accord? Donc, qu'est-ce qui a changé? Le Zohar dit, c'est très simple. Il dit, au début, dès qu'il était en train de rechercher, il avait une soif, il voulait quelque chose, il était comme du feu. Après, quand tu le vois, après qu'il a bu de l'eau, il s'est refroidi comme de l'eau. Mais c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. Un, c'est la recherche, l'autre, c'est l'extase. L'extase, on a dit, ça, c'est pour en haut, c'est pas pour ici. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne de temps en temps. Mais la recherche, le plaisir de la recherche, ça, on peut l'avoir. Mais ça par contre, faut qu'on rentre dans les détails parce qu'il y a beaucoup de, détails ici pour comprendre ça. Véhachénite. Vous avez dans les mots Véhachénite? Alors, où on est dans les mots Véhachénite, pardon? Véhachénite. La ligne qui commence par Véhachénite. Voilà, j'accélère un peu parce que.
Véhachénite pour nous dire, si on a un extase, c'est sur ce point-là, il va nous booster, donc on va le travailler.
Exactement. Ouais. Mais c'est très rare qu'on ait un extase. Tu veux que je te dise? En général, ça arrive, en général.
C'est un cadeau, c'est pour nous booster. Je ne le donnerai pas.
En général, ça arrive quand on fait teshuva. Tu vois, ceux qui font teshuva, ils veulent une mitzvah, il y a encore une mitzvah, encore une mitzvah. Ils sont tellement heureux, ils ont l'impression qu'ils ont. Oh là, ma bas. En vérité, c'est un cadeau que Dieu leur donne pour les booster. Et après, ça leur fait de la peine. Parce qu'après.
Ils retrouvent plus
la passion qu'ils avaient avant.
Comme le camé, quoi.
D'accord?
Camé de premier shoot, c'est amoureux du premier shoot, c'est tout ce qu'il a.
Oui? Il n'arrive plus.
On a pas testé,
non, mais là, ce qu'il t'explique ici.
Amène-en à
ce d'accord. Ce qu'il t'explique ici, c'est qu'en vérité, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu donne. Quand il voit quelqu'un qui veut faire teshuva, il donne un cadeau de le faire kiffer ce qu'il fait. Mais après, quand il veut revenir, il veut essayer de retrouver ce plaisir, il n'y arrive plus. D'accord? C'est quelque chose qu'on vit tous.
C'est vrai, hein.
Et après, pour vivre, d'accord? C'est. C'est un cadeau, t'as raison. C'est un cadeau. C'est un cadeau. On maîtrise pas. C'est pas
un cadeau, mais c'est lié aussi à la crainte du fait que quand tu reviens, tu te dis bon, si je fais pas ça, ben peut-être que bon, ben je vais le faire.
Mais ça, c'est un cadeau.
Tu crains aussi, non?
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand on dit que c'est un cadeau? Ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux pas programmer.
Oui, mais si t'as pas de crainte, il y a plus
rien. Une crainte, on peut la programmer. Je peux programmer qu'aujourd'hui, je vais passer une demi-heure à réfléchir à Akadosh Baruch Hu et je vais me mettre à le craindre. Ça, je peux le programmer. L'amour de Dieu, tu peux pas le programmer. Réfléchir. Tout se passe par la réflexion. C'est un exemple. Imagine-toi que ce plafond doit tomber. Et que j'ai pas peur. T'as quelqu'un qui va venir pendant une demi-heure, va m'expliquer pourquoi, statistiquement, ce plafond va tomber. Je vais me mettre à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il me l'a expliqué. Quand je m'explique qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu gère tout, je me l'explique par A plus B de ce que je vois autour de moi, automatiquement, mon cerveau, bah, A plus B, il arrive, il dit, bah, automatiquement, il faut avoir peur. Ça, je peux le faire. Ça, je peux le programmer. C'est ce qu'on fait pour Rosh Hashanah. On se met en condition, le shofar et les smichot, etc. On se met en condition pour avoir la crainte de Dieu.
C'est pour ça qu'on a frappé le mois d'août, alors.
Oui. Mais, l'amour, tu peux pas? La seule chose que tu peux avoir dans l'amour.
Par amour que tu fais ça aussi, tu fais slichot, les roches de Janaki pour aller faire. Mais aussi par amour.
La crainte, c'est pas la crainte du bâton.
Ah, tu te lèves à 6h du matin par amour, toi?
Ou 5h? Non, mais attends. Il y en a combien qui se lèvent,
Oui, c'est pour ça, mais tu crois qu'ils se lèvent par amour?
Mais on est bien d'accord qu'on parle du Yom HaDin, non? C'est bien aujourd'hui, on est jugé.
Oui.
On est heureux, on est content, on est confiant. On est confiant que ça va bien se passer. Mais c'est Yom HaDin, c'est un moment solennel. C'est pas un moment où on rigole pas, c'est un moment où on passe moins de temps que d'habitude dans les repas, on dort pas, on va faire plus de télévision, c'est-à-dire que c'est un moment solennel, c'est un moment sérieux.
Je crois que ça se rejoint aussi quand tu dis par amour, par crainte, je sais pas si je me lève le matin pour sirote, si c'est par crainte ou par amour. Au contraire, non, je sais pas si c'est forcément par crainte, ça peut
c'est
être.
La raison, oui.
Ouais.
Ça peut être par habitude, c'est un bon point,
Par habitude, non plus. Mais alors je viens faire Shabbat par habitude. Alors je fais Shabbat par habitude aussi.
Tu sais, j'avais expliqué, on avait fait une fois un cours sur les slichot, j'avais expliqué que tu peux avoir une personne qui fait les slichot pendant 40 jours, d'accord? Il a chanté, il a fait tout ce que tu veux, et pas à un moment il a pensé, d'accord? Pas à un moment il a pensé, d'accord? Non, écoutez, c'est quoi le but des slichot?
C'est se préparer.
Non. Un jour, il s'est levé, qui pour il a oublié.
C'est quoi le but des slichot? Le but des slichot, c'est de demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour nos averot. Ça veut dire qu'au moment où je fais les slichot, à un moment, il doit avoir un déclic, je dois me dire pardon à Kadosh Baruch Hu pour telle et telle avera que je fais. C'est possible qu'une personne qui est dans la routine, comme ce qu'il dit David, c'est un très bon point, il peut faire tous les champs, il peut se lever à 5h du matin.
Ça a moins de valeur.
Il passe à côté.
D'avoir habitude, si tu dis le matin en arrivant, c'est ce qu'on fait. Pardonne-moi pour les trucs, c'est...
D'accord,
mais si tu n'as aucune crainte là-dedans, c'est pas...
Tu fais vraiment pas habitude. C'est ce que tu veux dire, le divine, c'est tous les jours. Donc, d'accord. Là, alors, ça, c'est.
Il n'y a aucune crainte dans le fait que tu veux te faire pardonner.
Tu sais très bien, c'est très dur. Ouais, tu sais. Mais,
est-ce que quand tu vas être à la synagogue, tu vas penser à ta vérote?
Non, moi, je crois pas.
Honnêtement.
Mais alors, est-ce que...
Pas machinalement.
Donc c'est pas les sérotes.
Pas de faire les trucs pour dire...
Honnêtement. Ah, tu vois, il a répondu honnêtement. Honnêtement, c'est ça les sérotes.
Ah, tu parles comme ça, habitude.
Mais c'est, qu'est-ce qu'on dit dans les sérotes? Khatanou lefanecha, nous avons fauté, et pitié de nous. C'est même bon. Si on le dit en chantant, hein. Nous avons fauté comme...
Non, mais je sais.
Même qui pour toi, tu l'as, c'est que ça.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de tout ça, et c'est Rambam qui dit ça, ce que je vous dis. Rambam, il dit le but de toute cette filote et de tout ce chauffard, etc., c'est d'essayer de faire que, pendant une seconde, il y aura un déclic dans la tête de la personne qui va se dire, il faut que je m'améliore.
Ouais, mais je l'ai pas fait par amour, je l'ai fait tout de plus par crainte. Parce que je savais que, il faut lire les, faut que j'aille pour justement, parce que j'ai peur qu'il va m'arriver.
Voilà,
ou...
C'est par crainte.
Tu as raison. Le jugement, il sera moins bon si je
exactement.
Matin,
donc c'est par crainte. On commence par la crainte. La crainte vient de notre travail. C'est programmé à la crainte. L'amour, c'est pas programmé. Le seul amour qui peut être programmé, ce qu'on va expliquer tout de suite, ça on va rentrer dans les détails. Il dit Vehashenit. La ligne commence par Vehashenit. Voilà, le deuxième. Vehashenit, la deuxième catégorie d'amour. Iava, Vetava, Shanefesh, Mitava, Veo Evet, Vachafetzel et Dovka Bashem. C'est l'amour. L'amour pas de l'extase, l'amour de la recherche. Litzror, Bitzror, Achaim. C'est que la Neshama a envie de retourner vers Hachem. Vekirvat, Elokim, Tovla. Mais Odd, c'est-à-dire c'est quand par exemple tu vas te lever un matin et tu vas dire la vérité, c'est dommage, j'aurais aimé être plus religieux, j'aurais aimé étudier plus de Torah, ça c'est de l'amour. Pourquoi? Parce que ta neshama a une soif à ce moment-là. Elle se dit, ah, j'aurais aimé avoir plus. Elle a soif. Ça c'est pas de la crainte, c'est pas que t'as peur, c'est que tu te dis j'aurais dû faire plus. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça c'est la mise de Ve'avta Hashem Elokecha. C'est un grand chidouche qui dit ça. Il dit la mise de Ve'avta Hashem Elokecha, d'aimer Hashem, c'est quoi hein? C'est pas si j'aime pas, qu'est-ce que je fais? Il dit non, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah d'aimer Hashem, c'est pas la mitzvah de l'extase. C'est la mitzvah de la soif. Ça veut dire que quand je me lève un matin et que je me dis la vérité, j'aurais aimé rajouter dans la Torah, j'aurais aimé mettre plus de kavana dans la tefila. C'est pas par la peur que je le fais. Hein. J'ai pas peur qu'un truc va me tomber sur la tête. C'est, je me dis je devrais avancer plus. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est la flamme de ma neshama qui est attirée vers sa source, qui est attirée vers la Kadosh Baruch Hu. Ça, on appelle de l'amour. C'est ça de l'amour. L'amour, je suis attiré comme une flamme. Il a envie de, il est attiré, il a soif. Ça, c'est Ahavat Hashem. Et ça, il te dit, tout le monde peut le faire et doit le faire. On doit avoir le sentiment qu'on a envie de le faire. D'ailleurs, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, sur le pasuk Ve'ahavta et Hashem Elokecha, juste après, c'est écrit, Vayu advarim ha'el asher nochim et savecha hayom. Parce qu'il dit que les mitzvot que j'étais ordonné à Kadosh Baruch Hu, il dit, ils devront être aujourd'hui sur ton cœur. Alors Rashi pose la question, il dit, mais Dieu nous a pas donné les mitzvot aujourd'hui, il nous a donné les mitzvot, ça fait 3000 ans. C'est quoi aujourd'hui? Rashi là-bas, il dit un grand ridouche. Il dit, Bechol yom iyu be'enecha kechadashim. Que chaque jour, je dois me travailler pour que ça soit comme quelque chose de nouveau. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, je dois essayer de trouver des nouvelles nuances, et comment je peux rajouter ici, et comment je peux rajouter là. C'est un peu ce que tu as dit, Marcel, tout à l'heure. C'est-à-dire, chaque jour, je dois essayer de rajouter les détails, ce qui fait qu'à chaque fois, je veux rajouter quelque chose. Comme dans un business. Tigré, il a trouvé une affaire. Il a une idée, d'accord? Il a une idée. Il s'est lancé. Son produit se vend bien. S'il s'arrête là, il cherche pas à innover son produit. Qu'est-ce qui va se passer avec son produit?
Il va reculer,
il va mourir son produit. Si tu veux que ton produit tienne, il faut constamment innover. Il faut constamment que t'aies la recherche. Même la Torah, c'est comme ça.
Pas la Torah.
T'es obligé. Non, la Torah va pas mourir. C'est moi qui vais mourir.
Dans les ressources que tu vas mettre, il faut être obligé de chercher à chaque fois
comment je peux améliorer.
D'accord, mais.
Comme dans un business. Je me dis, qu'est-ce que je peux améliorer? Il faut constamment être en mode recherche. La recherche, c'est quoi? La recherche, c'est pas l'extase. La recherche, c'est l'amour. Ça veut dire, j'aime le produit, et comme j'aime le produit, je recherche comment l'améliorer. Ça, on peut l'avoir avec Akadosh Baruch Hu tous les jours.
Il fait,
ça va dans le sens contraire des habitudes, hein, quand tu dis ça. C'est contraire aux habitudes.
Exactement. Il faut casser l'habitude.
Non, c'est pas les habitudes.
Il faut casser l'habitude.
Voilà, c'est ça, je vais te dire.
C'est ce que je viens de dire.
Nous, la grosse majorité fait beaucoup de choses par habitude.
On fait tous par habitude.
Et c'est pas pour autant qu'on régresse.
Si. Parce que le fait de ne pas augmenter, je t'expliquais, très simple.
D'accord, mais c'est pas...
Dans la Torah, le fait de ne pas augmenter, c'est régresser. C'est pas que dans la Torah, c'est même dans les affaires. Même si tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Quand tu ne développes pas ton produit, tu recules. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite, tu vas t'en rendre compte peut-être dans 5 ans. Mais tu as reculé. Dès que tu arrêtes d'innover, tu recules.
Rien que regarde ton salaire. D'accord, si ton salaire l'augmente.
Exactement.
Pas,
mais c'est un fait, ça. Tu peux voir dans toutes les affaires, c'est comme ça. Tu peux avoir... Regarde, oui. Tu connais, je donne un exemple. Tu connais,
regarde l'EDF, c'est même pas, c'est la vie concrète là.
Tu connais Google? Est-ce que tu connais Google? D'accord? Est-ce que vous connaissez Google? D'accord? À la base, ils ont commencé par quoi?
Google.
D'accord? Ils ont commencé par un moteur de recherche. C'est un produit qui marche très bien. Ils sont constamment en train d'innover. Après, ils ont lancé leur... Enfin, je vous donne des exemples. Après, ils ont lancé leur service mail. Après, ils ont lancé leur service cartographie. Après, ils ont lancé leur service de... Ils innovent constamment. Il n'y a pas un mois qui passe... Je suis la technologie, hein, c'est mon métier. Il n'y a pas un mois qui passe sans qu'ils sortent de nouveaux trucs. C'est pour ça qu'ils sont à la pointe de la technologie.
Oui, comme il dit, parce qu'il y a concurrence. Ils seraient pas
concurrents. Non, ils cherchent des choses... Quand ils sont lancés dans la cartographie, etc., ils étaient les premiers. Ils cherchent à innover. Pourquoi ils cherchent à innover? Ils sont très bien dans la recherche. Pourquoi ils ont besoin de chercher d'autres choses?
Il y en a un autre qui va apprendre ça.
Ouais, non, c'est pas la raison. Alors, je t'apprends quelque chose. Chez Google, bon, c'est pas un cours sur Google, aujourd'hui, mais je t'apprends quelque chose. Chez Google, pendant 10% du temps, les employés, ils peuvent développer ce qu'ils veulent.
Leur master.
Écoute bien. Ils développent ce qu'ils veulent. Ça veut dire que le patron, il leur dit, vous faites ce que vous voulez. Vous développez ce que vous voulez. Ouais, d'accord? Et t'as des milliers de projets qui sont faits comme ça, et après, à la fin, c'est voté, lesquels on récupère, lesquels on récupère pas. Pourquoi? Parce que c'est très important pour eux de constamment être en création. Constamment être en ridouche. D'accord? Le Baal Shem Tov, il dit qu'on doit apprendre de tout. C'est pour ça qu'ils sont à la pointe. C'est pour ça que même si c'est un autre qui va venir, ils sont très très loin devant. Parce qu'ils sont constamment en train d'innover. C'est ce qu'il te dit ici. L'Avdil. D'accord? Tu dis que c'est quoi la Ahavat Hashem?
Pourquoi l'Avdil? Il y a des chiffres dans le lot.
Oui, mais bon, Dieu, c'est pas Google.
Non, mais... Dans le lot de ce qui... Hein?
Mais toi, tu verrais les services cartographie et...
Hein? Et même si d'autres ont des idées, ils les rachètent, alors qu'est-ce que tu veux faire?
Ouais. Ça, c'est déjà pas bon, tu vois.
Hein? C'est comme ça, là.
Quand tu rachètes, ça veut dire que tu n'as pas une
idée. Exactement. Ça, c'est pas bon, ça.
Ouais, mais bon. Ils ont des fonds à investir et les investir.
Ils ont acheté plein de boîtes en Israël, en plus.
Bon, mais ça c'est déjà pas bon. Quand tu rachètes le travail des autres, c'est pas bon. D'accord? Le ridouche, c'est quand j'ai un produit et constamment je cherche à l'améliorer. Comment je peux l'améliorer? Ça c'est Ahavat Hashem. Ça c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et ça on peut l'appliquer aussi dans le couple. D'accord? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut dire que dans son couple on a constamment l'extase? Ça veut dire qu'on est content. On est content d'être marié. Il te dit pas forcément. C'est possible. C'est possible que tu l'auras jamais. C'est possible qu'on l'aura seulement dans le. Par contre, qu'on peut avoir. C'est l'amour. C'est important ce que je dis. Écoutez, c'est dommage. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on peut obtenir? C'est l'amour de la recherche. C'est quoi l'amour de la recherche? Ça veut dire que je me pose la question. Bon, maintenant notre couple en est là. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Même un petit détail. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Non, pas elle, moi.
Ah bon, excuse-moi.
Les œufs.
La nappe. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour améliorer le couple? D'accord? Comme quelqu'un qui a un produit, d'accord? Voilà, comme quelqu'un qui a un iPhone, il dit quelle application je vais télécharger aujourd'hui?
Ça, c'est innové.
D'accord? Il vit toujours un nouveau truc. Ridouche. Ben, c'est comme ça que doit être la Torah. Ça, on peut le faire. Et ça, c'est ça la mitzvah de Ahavat Hashem. La mitzvah d'être constamment à la recherche. Comment je peux innover le produit? Comment je peux même plus me rapprocher d'Akadosh Baruch
Hu? Pas innover, c'est
doit s'impliquer dans la Torah.
Innover. C'est Rashi qui dit ça?
Il existe déjà. Il
non, mais innover pour moi.
S'impliquer.
Innover pour moi.
D'accord.
C'est-à-dire, je vais rajouter quelque chose de nouveau. D'accord? Et ça, l'Admor HaZaken te dit ici, il te dit... Ve'avazo imusteret belev klal Israël afilu bareshaim. Cet amour est caché chez tous les juifs, même chez les reshaim. Ça veut dire que ça, personne peut dire, j'ai pas envie de revenir vers Dieu. Ça n'existe pas. Personne ne peut te dire ça. Même le plus grand des Réchaïm, il a toujours cette envie de revenir vers Dieu. Rappelez-vous, c'est deux choses différentes.
Il est athée.
D'accord, j'explique, j'y arrive. Il y a la crainte de Dieu qui vient suite à un travail.
On a un bon exemple.
Donc en vérité, on a ici trois choses, trois points. On a la crainte, on a l'amour de la recherche et on a l'amour d'avoir trouvé, l'extase. La crainte, ça vient suite à un travail de l'homme. Personne ne le fera à ta place. L'amour de la recherche, la soif vers un Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de travail pour ça. C'est naturel. Je vais expliquer tout de suite avec des exemples. C'est naturel qu'un juif veut s'approcher de Dieu. La preuve, c'est quoi ? La Gemara nous dit que les Réchaïm, leur vie est pleine de regrets. Toi, tu le vois, tu crois qu'il est athée. Mais toute sa vie, il n'arrête pas de regretter. Pourquoi il regrette ? Pourquoi il peut pas kiffer ? Un juif ne peut jamais kiffer une Avera à 100%. Ça n'existe pas. Même s'il kiffe au moment de l'Avera, après l'Avera, il n'est pas bien. La Gemara dit, c'est un reset que Kadosh Baruch Hu fait avec
lui. Il y a un paquet de juifs qui sont contre...
Bien sûr. Mais un juif, parce qu'ils savent pas que c'est une Avera. Je parle en sachant que c'est une Avera.
Ouais.
Quelqu'un qui sait que c'est une Avera, fait l'Avera. Il peut pas kiffer la verra jusqu'au bout. Ça, c'est la Gemara qui a dit ça. Elle dit que c'est un reset qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec les juifs. Un goy, c'est, parce que c'est normal, c'est logique qu'il devrait être comme ça. Un goy, il peut faire la verra jusqu'au bout. Il peut faire une fin de la verra, il peut dire, ah, j'ai kiffé. D'accord? Le juif, Dieu ne le laisse pas kiffer jusqu'au bout. Il doit te mettre le sentiment de regret après. Pourquoi? Laisse-moi kiffer. Ah, bah, je paye de toute façon. Non. Parce que... Bah oui,
je paye méchamment alors, hein.
Bah oui, mais je paye de toutes les façons, laisse-moi kiffer au moins.
Combien?
Eh ben non, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'en vérité, comment c'est que le juif il a toujours des regrets? Parce qu'il y a un feu qu'on pourra jamais éteindre, c'est le feu qu'un juif est attiré vers un Kadosh Baruch Hu. Il a la soif vers un Kadosh Baruch Hu. Tu peux rien faire pour ça. Alors des fois après on peut essayer de le cacher, etc. C'est pour ça qu'il dit mesouteret. Mesouteret en hébreu ça veut dire qui est caché. C'est-à-dire tu peux le cacher des fois. Mais il ressort toujours. C'est quelque chose qui est impossible d'éteindre. Tu peux avoir le plus grand rachat sur Terre, il pourra jamais éteindre l'amour qu'il y a vers un Kadosh Baruch Hu. Impossible. Il peut peut-être le cacher. C'est-à-dire décider de ne pas y penser, décider de penser à autre chose, ça il peut le faire. Mais l'amour qu'on a au fond de nous envers un Kadosh Baruch Hu, c'est un cadeau qu'on a depuis Abraham Avinu.
Ah, c'est un cadeau, c'est pas
c'est un cadeau. Ça c'est quelque chose, il n'y a rien à faire, on l'a. La crainte vient suite à un travail. L'amour de l'extase, c'est... On a dit c'est un cadeau et c'est quelque chose qu'il y a des gens qui l'obtiennent jamais. Ce qu'il y a entre les deux, c'est l'amour de la recherche, ça veut dire l'envie de s'approcher de Dieu. C'est quelque chose que chacun en nous l'a de série. C'est pas en option, c'est de série. Tu peux rien faire, impossible de l'enlever. C'est pour ça qu'on peut jamais se convertir, impossible d'enlever ça. Tu peux le cacher, mais tu peux pas l'enlever. Voilà pourquoi les Réchaïm, leur vie est pleine de regrets. Il dit ici, va, on va développer un peu dans les mots, on va aller jusqu'à 10h aujourd'hui. Imusteret belev klal Israël afilu bareshaim. Cet amour est caché dans le cœur du klal Israël, c'est-à-dire de chacun du klal Israël, afilu bareshaim, même chez les Réchaïm. Umimena ba'alaem acharata. Et c'est de cet amour que vient le regret suite à une avera. Pourquoi il regrette? Parce qu'après qu'il a fait l'avera, que pendant qu'il a fait l'avera, le Yetzara, il a tout fait pour cacher cet amour, pour qu'il fasse l'avera tranquillement. Mais après ça remonte, tu peux rien faire. Il a sa neshama qui lui dit, mais attends, qu'est-ce que ça fait? Ach. Pour ceux qui étaient au cours ce matin, on a expliqué comment ça se fait qu'une personne fait une avera. Quand une personne fait une avera, parce qu'il a un ruach tout. Il a un esprit de folie qui fait, un vent de folie. D'accord? Au moment où tu fais une avera, t'es animé d'un vent de folie, d'un esprit de folie. C'est la Gemara qui dit ça. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas toi, tu sens que c'est pas toi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, un juste ne peut pas faire une avera. Ni il veut, ni il peut faire une avera. Qu'est-ce qu'il fait Yetzara? Il nous met dans un vent de folie. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait Yetzara? Il essaie de tout faire pour que tu n'y penses pas à Dieu pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, pendant quelques heures. Il fait tout pour que tu ne penses pas, pour que tu penses à autre chose. Il va te faire kiffer, il va faire ce que tu veux. Mais après, ça revient. Tu peux rien faire. C'est impossible, ça revient. Ça, c'est quoi? Grâce à quoi? Grâce au cadeau qu'on a, que chaque personne qui est juif, il a un cadeau, qu'il a une Ahavat Hashem de série. Tu n'as rien besoin de faire pour ça. C'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Ve'alken, c'est pour ça. Avodat Adam Lekonoi, Leitrazek ou Leitgaber Alaklipa Bakol Mikol Kol. C'est pour ça que quel est le travail d'un homme envers son créateur? C'est quoi le Avat Hashem? C'est quoi l'amour d'Akadosh Baruch Hu? L'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est de se renforcer. De se renforcer constamment sur le mal et de se dire à chaque fois que des fois quand t'as Yetzara qui vient essayer d'enlever cet amour, il vient te pousser à ne pas penser à Kadosh Baruch Hu. J'essaie de repousser Yetzara pour moi penser à Kadosh Baruch Hu, pour dire je veux m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est à la misère d'Avat Hashem. Donc vous voyez que nous, quand on entend le mot aimer à Kadosh Baruch Hu, on croit que c'est compliqué. Alors qu'en réalité, c'est très simple. Voilà, ne serait-ce que par exemple, imaginez que ce soir, à 20h, tiens, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller au cours ce soir. Pas la force. D'accord? Et tu dis, bon, la vérité, j'ai, ça fait quelques jours que j'ai rien étudié, il faut que j'étudie. Ça s'appelle Avat Hashem. Ton Neshama, à ce moment-là, a une soif, elle a dit, il faut que j'étudie. Ça s'appelle Avat Hashem. Sans rentrer dans ma Savoda, ça s'appelle Avat Hashem. Ça veut dire que ma Neshama a été attirée vers un Kadosh Baruch Hu, comme quelqu'un qui a soif, et donc ma Neshama aime à Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'elle m'a poussé à venir au cours. Ça, c'est un exemple d'Avat. Je viens de en venant en cours, tu viens de faire une mitzvah de Avat Hashem.
Mais est-ce que ça fait considérer comme s'il avait fait la mitzvah? Il a fait tout, il s'est levé, il s'est préparé, mais bon, il s'est content, la neige, le truc, impossible d'y aller. Mais je veux y aller. Mais là, c'est pas moi, c'est indépendant de moi. On m'empêche.
Et l'Avat Hashem quand même. L'Avat Hashem, c'est un sentiment. Est-ce qu'il voulait aller au cours?
Oui, mais justement, il a preuve, il fait tous les...
Il fait tout pour aller, donc ça, c'est une soif qu'il a.
Et même s'il n'y va pas,
c'est ça, Vatachem.
À la soif, il a été...
C'est ça, Vatachem.
Tu l'as dit il y a deux semaines, tout ça.
Quand
c'est... Celui qui me réveille le matin pour
oui.
aller à la tépi, là.
C'est ça, c'est Vatachem. Non, mais c'est pour ça que je réponds non. Mais je réponds à la question de David. C'est différent de ce qu'on a expliqué il y a deux semaines. Ce qu'on a expliqué il y a deux semaines, c'est qu'on a dit il y a des choses qui viennent avec... Il y a des choses qui viennent avec un effort, et des choses qui viennent sans effort. Là, je rentre pas dans ce détail-là. Peu importe effort ou sans effort, ça c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Je suis en train d'expliquer, quand on entend Avat Hashem, l'amour de Dieu, on se dit, mais c'est quelque chose qui est impossible. Ça, je dis, non, je crois que c'est impossible. C'est chacun de nous. Qu'est-ce qui se passe quand je fais une... Pourquoi je fais la Vera quand je fais la Vera? Parce que j'ai un vent de folie, j'ai un esprit de folie, qui me dit, c'est pas grave si tu fais la Vera, t'inquiète pas, tu resteras juif quand même. C'est pas la fin du monde. D'accord? C'est l'Itzara qui fait tout pour m'endormir. Il veut m'endormir. Il me dit, t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu rejuves quand même.
C'est ce que tout le monde pense.
Ça veut dire que, en vérité, Maneshama, elle veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il fait l'Itzara? L'Itzara, il te dit, tu seras juif quand même, t'inquiète pas. Ça veut dire que tu toucheras pas à cet amour. Mais la Neshama, elle sent que quand j'ai fait la Vera, ça a causé quelque chose. Ça a cassé quelque chose. Donc la Neshama, après, elle t'envoie le sentiment de remords. Tu peux rien faire. Le plus qu'il peut faire l'Itzara, c'est quoi? C'est au moment où tu fais la Vera, il te fait oublier que tu coupes les liens avec Akadosh Baruch Hu. Mais après, ça revient parce que t'as coupé les liens quand t'as fait la Vera. Ça s'appelle Avat Hashem. Ça, on peut rien faire. Impossible d'enlever les regrets. On sait qu'une fois, il y a, je crois que c'est avec le Ramban, Nachmanide, qu'on raconte ça. Une fois, il y a un rachat qui est venu le voir. Quand on parle des rachats à l'époque, c'est pas les rachats d'aujourd'hui, c'est des vrais rachats. Des pros. C'est une fois un rachat qui est venu. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est des rigolos. Alors, des gens, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font, quoi.
Mais malgré ça, d'accord, il a quand même.
Il est venu voir Nachmanide et il lui a dit. J'arrive pas à avoir un plaisir de mes avérotes.
De
mes avérotes.
Ah.
Il n'arrive pas. Il veut kiffer. Il te marie avec une Goya, tout ce que tu veux. Il est toujours... Ça le tracasse toujours. Quand ça va s'arrêter? Ça y est, je... Comme tu reçois du spam. Désabonnez-moi de ce... Je veux pas... Il a dit impossible. C'est inné en toi, tu pourras pas l'enlever.
Ouais, ceux qui sont mariés avec des non-juifs, tu crois, ils savent qu'ils sont dans la Vera ou...
Toute leur vie est un calvaire.
Ils savent qu'ils sont dans la Vera.
Toute leur vie est un calvaire. Ils te le diront pas, peut-être. S'il est honnête avec toi, il te le dira. Toute leur vie est un calvaire. Ils n'ont pas la manière de réfléchir. Ça n'a rien à voir.
C'est-à-dire qu'ils savent pas, finalement, qu'ils doivent pas savoir qu'ils sont dans le...
Mais si, ça...
Ils le sentent.
Ils se trompent.
100%. Seulement, le problème, c'est qu'après, il dit c'est trop tard, j'ai des enfants, je suis marié, etc., qu'est-ce que je veux divorcer? Après, c'est compliqué, après, on a du mal à faire le pas. Mais ils le sentent, bien sûr qu'ils le sentent.
Après, ils sont ensablés, ils peuvent plus ressentir.
Ils le sentent très très fort.
Il y a beaucoup qui ressortent, vous voyez,
Il y en a qui arrivent, c'est vrai.
Il y en a qui arrivent.
Mais c'est très difficile.
C'est très difficile.
Bon, on décale.
Il faut être... Après, c'est comme, par exemple, une personne...
Il y a plein de issu d'un mariage mixte qui
se bien sûr, c'est très beau.
Le père ou la mère.
Ah, parce que le rabbi, parle de suicide.
Parce qu'il y en a plein.
Enfin, si tu laisses ton ami se marier avec une non-juive, il parle de suicide, le rabbi. C'est comme si tu laissais ton ami se suicider.
Oui, pourquoi
quand
c'est
tu vois ça devant toi, qu'est-ce que tu fais?
Pourquoi c'est un suicide? Parce que c'est très simple, parce que de ça, si t'as quelqu'un qui va se marier avec une goya, et que les enfants qui vont sortir ne seront pas juifs, et que peut-être ils vont jamais, probablement statistiquement, ils vont jamais revenir. C'est-à-dire que t'as de la semence juive qui a été perdue pour rien. C'est-à-dire que ça veut dire que t'as une famille qui est perdue. Après, on a de la chance. C'est écrit que quand les enfants se convertissent, c'est une preuve que la teshuva a été acceptée. C'est une preuve que Kadosh Baruch Hu a accepté la teshuva.
C'est la teshuva de qui des enfants?
La teshuva du père.
Et quand il y en a un des deux, s'il y en a deux?
Bon, après, nous, on n'est pas dans les calculs de la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, nous, on fait ce qu'on peut. Ce que je vais expliquer ici, c'est que la notion.
C'est plus mal parce qu'on chez l'homme plein, chez la femme. Parce que la femme, c'est.
Bien sûr qu'on en voit plein. Leur vie est pleine de regrets. Mais tiens, regarde.
Ah, ça, c'est. Ça,
c'est comme un fumeur. Regarde. Un fumeur qui a 50 ans.
D'accord. C'est combien de temps, ça? C'est combien de temps après?
D'accord, mais attends, excuse-moi. Je donne un exemple. Prends un fumeur qui a 50 ans. Tu crois qu'il s'en fait, que ça lui fait du mal à sa santé? Il sait. Est-ce qu'il arrive à arrêter? Combien de pourcents de fumeurs arrivent à arrêter? Très peu, probablement. Alors que je suis pratiquement sûr que 95% doivent ressentir que c'est pas bien ce qu'ils font.
Non,
tu peux plus t'arrêter. C'est très compliqué.
C'est injuste pour ça. C'est-à-dire que si c'est la femme qui va avec un goy qui a des enfants, les enfants ils sont juifs. Il y a pas de trucs.
Ils ont moins de problèmes pour revenir.
Ils ont moins de problèmes.
Même pour se marier, ils ont moins de
problèmes. Et statistiquement,
mais c'est injuste.
Quand t'as les enfants. Excuse-moi.
C'est pas injuste, c'est la loi.
Ça veut dire que. Un enfant qui a eu un père goy a plus de chances de se marier avec une fille goy qu'un enfant qui avait une mère goy. J'ai pas dit qu'il va se marier avec une goya, mais il y a plus de chances.
De toute façon, ça comprend. C'est des glingoles.
J'ai un exemple concret. Moi, je connais quelqu'un. Oui. Le père, il est juif. La mère, elle est juive. Ils ont divorcé à propos d'un moment.
Bon.
Il y a un enfant, il s'est converti.
Ah, prochain.
Les deux, ils ont été élevés dans la religion, parce que la mère l'a toujours respecté. Et le deuxième. Il a essayé deux fois, et à chaque fois...
Qui a essayé?
Les enfants.
Il a essayé de se convertir et l'arrêter?
Une fois, deux fois. Oh. Alors qu'il a grandi dans la religion, il fait tout, mais il est... Au niveau du consistoire, il n'est pas reconnu.
Mais pourquoi il veut se convertir?
Parce qu'il ne l'est pas, à la base.
Non, mais pourquoi il veut se convertir? Pourquoi il veut être juif?
Pour ses enfants.
Non, j'ai pas... Mais tu veux dire, il y a un enfant qui n'est pas juif et qui veut se convertir.
Non, il a deux enfants. Un qui s'est converti, qui a réussi la conversion, et le deuxième qui n'a pas réussi la conversion.
Pourquoi il veut se convertir? Qui lui a dit de se convertir?
Parce qu'il a envie.
Parce que le père a envie.
C'est le père, c'est ma question. C'est le père qui a envie ou c'est le fils qui a envie?
Mais si le fils ne fait rien, il ne peut pas avoir...
Ça prend du temps.
Dis-moi, j'ai connu une famille à Vitry.
Pourquoi son frère a réussi?
Il a 10 ans, il a attendu pour la conversion.
Une famille à Vitry,
c'est moins apte à...
La conversion, c'est plus simple. Le père était juif, la mère était pas juive. Il y a deux garçons,
tous les jours, il dit
un grand garçon, il s'est converti par le consistoire, il s'est marié avec une goya. Le deuxième, qui a voulu se convertir, et c'était...
C'est converti, il s'est marié avec une goya?
Ouais.
Bien, il est fort, lui.
Il a dit, je vais faire chier mon père jusqu'au bout.
Ça fait un rachat, un vrai rachat.
Je vais faire chier mon père jusqu'au bout.
Je rigole pas.
Regarde.
Peut-être qu'il est tombé amoureux, qu'est-ce que tu veux.
Mendy, Daniel Amram connaît très bien cette histoire. Tu connais Daniel Amram? Il connaît très très bien. Donc le premier, qui était converti par le consistoire, puisqu'il n'était pas juif, forcément, son père était juif et pas sa mère. Donc il avait, tu as retenu, il avait deux garçons et une fille, la troisième, c'était la fille. Donc le premier s'est converti au consistoire, ok, il s'est marié avec une goya. Quand le deuxième, qui s'appelle Thierry, il a voulu se convertir au consistoire, ils ont dit non, arrête les gars, j'en veux pas de ça. Non mais c'est normal. Maintenant, tu le
pourquoi
vois,
ils l'ont suivi,
c'est pas qu'il est religieux. C'est-à-dire, il est trop religieux même, je vais dire un truc, il est trop religieux. Il vit en Israël. Son grand frère, qui était marié, il a divorcé. Il n'était pas religieux, son grand frère.
Je connais. Ouais.
Tu vois, il a divorcé, tu connais. Et la maman, elle s'est convertie. Ouais. La maman qui a... Tu connais la maman qui s'est peut-être convertie à 60, 70 ans.
Ouais.
Et je ne sais pas si la fille, elle s'est convertie aussi.
Je crois pas, non.
Mais et le garçon Thierry, c'était un copain, moi. Thierry, il est très religieux.
Mais il n'est pas converti, c'est toujours un goy.
Non, il était converti.
Il a été converti depuis.
Non, mais bien sûr qu'il était converti.
Il a 13, je crois.
Ouais, voilà, il n'a pas été converti par le consistoire.
Pas par le consistoire, le coup. Mais c'est
non, il était blacklisté au consistoire.
Tu veux nous faire le même coup
de frère ou quoi? Bezrat Hachem, on...
Tu veux faire le même coup de ton frère ou quoi?
Bezrat Hachem, on continue la semaine prochaine, d'accord? On terminera le chapitre la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va s'arrêter, Bezrat Hachem, longuement. Sur la notion de l'Ahavat Hashem qui est accessible, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui est accessible, l'amour de la recherche. On va expliquer comment c'est inné et comment on peut le retrouver chacun chez nous. Et comment on fait quand on sent plus qu'on a la soif d'avancer vers un Kadosh Baruch Hu. Ça, on aura des techniques la semaine prochaine. Parce que ça, c'est de série. Ça, c'est pas un cadeau. Ça, on l'a tous.
C'est la soif.
C'est impossible.
Mais non, c'est qu'il a plus la soif.
C'est impossible qu'une Neshama n'a plus la soif d'approcher vers un Kadosh Baruch Hu.
Non, mais sur...
Une Neshama...
Sur la chose, il a plus la soif. Sur la chose, il a
une
plus
Neshama
la soif.
Une Neshama, c'est comparé Ner Hashem Nishmat Adam. La Neshama est comparée à une bougie. Tu sais pourquoi une bougie, elle bouge toujours vers le haut?
Ah oui.
Ouais, parce qu'elle recherche...
sa source.
Ouais. Maïmonide explique, il dit que la source du feu se trouve en dessous de la lune.
Quoi?
En dessous de la lune?
Ouais, en dessous de la lune. T'as la source du feu. Le feu, que tu connais, se trouve, sa source du feu se trouve en dessous de la lune.
C'est quoi, c'est une image?
Non, c'est pas une image, c'est vrai.
Alors, je
Bon, aujourd'hui, ils vont t'expliquer ça peut-être avec l'air chaud, l'air froid, etc. Mais Rambam, il dit clairement, il te dit que la source du feu se trouve en haut de la lune. En dessous de la lune, pardon. Et la flamme, quand elle cherche à monter, tu te rappelles, on avait expliqué ça. Où elle veut monter? Elle veut retourner à sa source. D'accord? La Neshama est comparée à une bougie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bougie, si tu veux garder le feu, tu es obligé d'avoir un combustible et une mèche. Si tu n'as pas le combustible et la mèche, la bougie, la flamme ne tient pas. Où va le feu? Il retourne à sa source. C'est quoi dans la Neshama? La Neshama, c'est le feu. D'accord? Kadosh Baruch Hu, c'est la source du feu. Et le corps, c'est le combustible et la mèche qui retient la Neshama. Mais la Neshama, dès que le cœur meurt, la Neshama repart chez Hachem.
D'accord.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Neshama, c'est comme du feu. Pourquoi le feu il bouge toujours? Parce qu'il veut monter chez Hachem.
Mais ça, je le sais.
Alors, ça veut dire que la Neshama, c'est
comme l'amour que t'as pour ta femme.
C'est impossible.
Ça n'avance pas ce que je t'ai dit. Il a plus la soif. Oui, c'est normal, il a plus la soif.
C'est impossible qu'il ait plus la soif. Ce qui peut arriver.
Mais là, la preuve, qui.
Ce qui peut arriver.
C'est ta soif.
Alors, justement. Ce qui peut arriver, c'est qu'on a caché la soif, d'accord, et que du coup on a éteint un sentiment. Pas éteint, on le... Comment ils appellent ça? Tu l'étouffes, exactement, Khazak. Tu l'étouffes, mais ça ressort. Quand tu étouffes quelqu'un, ça ressort. C'est pas parce que tu l'étouffes que t'as enlevé.
Je suis dernier.
Tu as étouffé quelque chose, tu étouffes, mais à un moment ça ressort, là, les chemins disent attends, et oh, ça ressort. Non, on va donner des techniques la semaine prochaine pour comment le faire ressortir, ça va être intéressant. Parce que ça, c'est à notre portée.
Oui, mais on n'a plus la soif.
C'était très bon, merci.
Tu l'as, mais elle est cachée. Je répète, regarde, c'est très simple. On a trois niveaux. Tu as la crainte, ça vient de mon travail. Tu as l'amour, qui est de la recherche, d'accord? L'amour de la recherche, de la soif, ça je l'ai, mais des fois il est caché. Tu as l'amour de l'extase, ça des fois je l'ai pas. Et même quand je l'ai, c'est un cadeau. La semaine prochaine, on va parler sur le deuxième niveau. Cet amour qui est déjà inné chez nous, comment je fais pour l'avoir quand il est éteint? Comment je fais pour le raviver? Pour raviver la flamme.